Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une, les excuses du gouvernement après une nouvelle cyberattaque.
C'est insupportable pour les Français, reconnaît le ministre des Comptes Publics. Le fisc visé une troisième fois par le même groupe de hackers. Patrick Bruel n'a eu aucun passe-droit. Réaction des avocats du chanteur après son autorisation par la justice à voyager hors de France, malgré sa mise en examen pour viol et agression sexuelle. Et puis l'Olympique Lyonnais a une victoire d'une qualification en Ligue des Champions. L'OL a résisté au Fenerbahçe hier soir en barrage aller. Match nul, un partout.
Le gouvernement présente ses excuses après un nouveau piratage.
On savait depuis la semaine dernière que les données de près de 700 000 particuliers et entreprises avaient été volées. On sait aujourd'hui que deux nouvelles fuites concernent les cadastres et les successions, moins sensibles que la première, mais revendiquées une nouvelle fois par le groupe de hackers Zero Bytes. Le ministre des Comptes Publics, David Amiel, a présenté ses excuses aux Français. Romain Cluzel, dans cette affaire, Bercy joue la transparence.
Et les explications sont venues de la directrice générale des finances publiques, Amélie Verdier. Selon elle, il s'agit d'une attaque sophistiquée puisque le hacker a pris le contrôle de plusieurs comptes liés à la direction des finances publiques.
Il a utilisé de manière combinée de la compromission d'un profil qui est pour nous le profil d'un agent et externe, mais réputé pour nous sécurisé. Donc il a réalisé ses opérations sur quelques jours en juin. Le compte ayant été coupé, il l'a refait en juillet selon le même mode opératoire avec un autre compte DGFiP compromis.
Un double accès qui a permis aux pirates informatiques de prélever les informations de plusieurs centaines de milliers de personnes. Le ministre des Comptes Publics, David Amiel, assure que des leçons vont être tirées et la sécurité renforcée.
J'ai donc demandé à ce qu'on accélère la double authentification pour tous les agents de la Direction Générale des Finances Publiques d'ici la fin de cette année. Elle est d'ores et déjà largement déployée, mais il faudra redoubler d'efforts pour en combler les lacunes.
Les services de Bercy doivent aussi multiplier les tests de défense en simulant des attaques, notamment par intelligence artificielle.
Vol de données également à l'éducation nationale, revendiqué là encore par le même groupe de hackers sur un forum. Ils disent avoir les numéros, les adresses mail et postales de plusieurs millions d'élèves sur une vingtaine d'années en arrière. Une enquête judiciaire est en cours. Les avocats de Patrick Bruel montent au créneau pour défendre leurs clients après la polémique suscitée par l'assouplissement de son contrôle judiciaire. Le chanteur de 67 ans est mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. La justice l'a autorisé en fin de semaine dernière à quitter le territoire français pour les vacances. Maxime Clieruza, ses avocats dénoncent l'instrumentalisation des décisions judiciaires.
Il l'affirme, il n'y a aucun passe-droit d'aucune sorte, une manière pour eux de répondre à la polémique, leur client étant parti à l'étranger après l'allègement de son contrôle judiciaire. Maître Lassec, Colin et Ingrin rétorquent qu'il est finalement de retour en France après ce bref séjour. Surtout, ils précisent que leur client ne présente pas de risque de fuite et qu'il a répondu à toutes les convocations de la justice, appelant de ses voeux, selon leurs mots, à la poursuite des investigations. Les avocats rappellent que le contrôle judiciaire ne constitue jamais une sanction et si les conseils du chanteur ont obtenu la levée de l'interdiction de quitter le territoire de leurs clients. Le parquet de Nanterre avait toutefois fait appel. La décision a été mise en délibéré au 16 septembre prochain.
Maxime Clieruza, service police-justice d'RMC. Deux diplomates iraniens expulsés de France dans les tout prochains jours, annonce le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en représailles à la décision de Téhéran de ne pas autoriser deux diplomates français à revenir en Iran. Ils avaient été arrêtés dans la capitale iranienne le mois dernier.
Autre annonce du Quai d'Orsay, l'arrestation de deux Français au Togo.
Détenus depuis le 27 juillet dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, le ministère des Affaires étrangères affirme être pleinement mobilisé pour s'assurer de leur état de santé, de leurs conditions de détention et de leur droit à la défense. Lou Garnier, il s'agirait de deux réalisateurs.
Oui, ils travaillent pour une société de production française, rapporte le Quai d'Orsay. Leur émission devait être diffusée sur France Télévisions selon des médias locaux togolais. Alors, pour le moment, le ministère des Affaires étrangères ne livre que très peu d'informations. Ils ne mentionnent pas leur identité ou la raison de leur arrestation, par exemple. Le Quai d'Orsay précise que les deux ressortissants français arrêtés le 27 juillet font l'objet d'une information judiciaire. Le ministère des Affaires étrangères affirme être pleinement mobilisé pour s'assurer de leurs conditions de détention et de leur état de santé. Depuis leur incarcération, les deux réalisateurs ont reçu trois visites de l'ambassade de France au Togo.
L'incendie du Gros Bessillon dans le Var est officiellement éteint, annonce de la préfecture hier soir. Après un mois de combat, 6300 hectares partis en fumée. C'est le feu le plus long de l'histoire du département. La loi sur l'aide à mourir promulguée par Emmanuel Macron après le feu vert la semaine dernière du Conseil constitutionnel. Et après des années de débats, cette loi permettra à certains patients de s'administrer un produit létal en présence d'un soignant en cas d'affection grave et incurable en phase terminale ou avancée, en cas de souffrance physique insupportable et à condition d'être capable d'exprimer un choix éclairé jusqu'au dernier moment. En Savoie, un troisième décès lié à la légionellose, une personne de 80 ans décédée. Les cas augmentent autour de Chambéry depuis début juin à cause d'une contamination du réseau d'eau privé.
C'est un problème que les hôpitaux des zones rurales commencent à trop bien connaître.
La fermeture des urgences à cause du manque de personnel, c'est le cas particulièrement l'été, dernière en date, celle de Saint-Louis en Alsace, même chose en Seine-Maritime, en Gironde également. Louis Salé, ça commence à inquiéter sérieusement les habitants et les soignants.
Ouria, qui habite près de l'hôpital de Briey en Meurthe-et-Moselle, s'inquiète de la fermeture des urgences pendant 10 jours.
À titre d'exemple, on a fait un déménagement ce week-end. On s'était tous dit, attention, hein, ne vous cassez pas une jambe, hein, il n'y aura pas d'urgence. Voilà, c'est ce genre de choses, d'inquiétude, on le disait en plaisantant, mais ça ne peut pas durer.
Et ce n'est pas la première fois que le service ferme et oblige les patients à faire 40 minutes de route.
On met en avant les problèmes de l'hôpital en disant, babine, il y a des problèmes de personnel, des problèmes, ça, on ne peut pas l'accepter. C'est quand même un service public.
Les urgences de Sainte-Foy-la-Grande en Gironde manquent aussi de médecins. Pendant les 2 mois de fermeture, les patients sont renvoyés vers Libourne où Sylvain Gaillot est représentant du personnel force ouvrière.
Depuis la fermeture de Sainte-Foy, on a un accroissement d'à peu près 30 personnes supplémentaires sur les urgences de Libourne par jour en moyenne, avec un temps d'attente qui peut aller de 8 voire 10 heures. Ça accroît la pression sur les personnels et sur la capacité de réception des patients, c'est sûr.
Mais tant que l'hôpital n'arrive pas à attirer de nouveaux médecins, la situation risque de perdurer.
Et on va en reparler ce matin. Les services d'urgence près de chez vous, est-ce que ça tourne? Est-ce que ça fonctionne en zone rurale en particulier? On va recevoir à 8h10 Dominique Peljac, qui est directeur général du CHR Metz-Thionville, et donc de l'hôpital Maillot de Val-de-Briey, fermé pour les urgences adultes jusqu'au 25 août. Est-ce que c'est normal, tout simplement, parce que c'est l'été, on n'a plus de services d'urgence qui fonctionnent près de chez soi? Vous nous le dites au 32-16 ce matin.
Une première historique. Sophie Adnot est devenue hier la première Française à être sortie dans l'espace. Une fierté française autant qu'un horizon pour les petites filles qui rêvent d'infini. Réaction d'Emmanuel Macron. Après 6 mois à bord de l'ISS, Sophie Adnot est donc sortie plusieurs heures pour effectuer une réparation, mais n'a pas pu aller au bout, Célestin Bougère.
La station spatiale internationale survole le nord-ouest de l'Afrique lorsque l'on aperçoit Sophie Adnot sortir du sas en combinaison. Elle demande en anglais l'accord du centre de contrôle à Houston et se lance.
J'arrive à l'extérieur.
Bienvenue dans l'espace.
Merci, je me sens bien dans l'espace. Je suis prête à commencer.
Objectif de la mission, remplacer une antenne défectueuse essentielle à la communication entre la Terre et l'ISS. Micro et caméra sur le scaphandre, tout est retransmis en direct dans le monde entier. On entend Sophie Adnot et son binôme américain communiquer, mais les deux astronautes ont pris du retard dans leur mission. Certains boulons sont difficiles à desserrer.
Je vais essayer comme ça. 1, 2, 3.
Bon travail, les gars.
L'antenne est finalement démontée, mais il n'y a pas assez de temps pour installer la nouvelle. Retour dans l'ISS pour Sophie Adnot et Anil Menon après 6h23 de mission.
Quelle journée! Merci à tous ceux qui ont rendu ça possible. Même s'il y a eu beaucoup d'inconnus et d'incertitudes, c'était un succès.
Aucune date n'est arrêtée pour installer cette nouvelle antenne. Prochaine sortie dans l'espace pour les astronautes de l'ISS, mardi prochain.
Et en football, tout se jouera à la maison pour l'OL.
Qui n'est qu'à une victoire d'une qualification en Ligue des Champions. Lyon a résisté hier soir contre Fenerbahçe en barrage aller. Match nul, un partout. Pas de victoire à la clé, mais une ambiance au rendez-vous, Corentin Roland.
Oui, une marée jaune et bleue et un bruit assourdissant imposé toute la partie par les 50 000 supporters du Fenerbahçe. Alors ce match nul ramené de Turquie est une fierté pour l'entraîneur lyonnais Paulo Fonseca.
L'atmosphère ici est incroyable. L'équipe a joué avec beaucoup de courage. Mais je pense qu'on a fait un match très très positif.
Les Lyonnais, pas intimidés par l'ambiance, ont même mené au score avant d'être rattrapés sur un but de l'ancien Marseillais Mason Greenwood. Recrue et buteur de l'OL, Loïs Openda n'a pas de regrets.
On a fait un bon match, franchement, venir faire un match nul à Fenerbahçe, c'est pas facile du tout. Je pense qu'on avait peut-être la possibilité d'aller chercher la victoire. On va se contenter du match nul, qui est un très très bon résultat. Maintenant, c'est à nous de faire les choses correctement au match retour.
L'attaquant belge est déjà projeté sur le match retour, où Lyon jouera sa qualification en Ligue des Champions devant son public.
On a vu l'ambiance qu'il y avait au match retour contre Sparta, et je pense que nos supporters seront derrière nous, parce qu'eux aussi, ils veulent aussi cette qualification, ils veulent entendre cette musique.
Une musique de la Ligue des Champions que l'OL attend de retrouver depuis 6 ans.
Le match retour mercredi prochain à Lyon. Il aura finalement choisi le Barça au détriment du Real. Le FC Barcelone officialise l'arrivée de Rodri dans ses rangs après des semaines de négociations avec Manchester City. Le Ballon d'Or et champion du monde en titre s'engage pour 4 ans, transfert estimé à plus de 76 millions d'euros. Et puis, vous savez que j'aime les records. Voilà un robot qui court plus vite qu'Usain Bolt, le robot Superman présenté hier par l'entreprise chinoise Unitree. Il court à plus de 45 km/h et il peut sauter jusqà 2 mètres d'eau. Je ne sais pas à quoi ça sert.
Ça fait de plus en plus peur, ce truc-là. Ouais.
Avec un peu moins de grâce qu'Usain Bolt aussi.
Ouais. Mais plus vite quand même.
Certes.
45 km/h, ça va vite.
Ça va vite.
Plus vite que moi, en tout cas aussi. Merci beaucoup, Clara Gabi. Et Laurent est en ligne avec nous depuis la Moselle. Bonjour, Laurent.
Bonjour, RMC.
Soyez le bienvenu. Ce matin, vous êtes assistant administratif et vous réagissez à ces piratages en série, notamment du service des impôts. Je crois que c'est vos beaux-parents qui ont reçu le mail de la DGFiP.
Exactement. Donc, ils ont reçu le mail hier. À savoir qu'ils ont 80 ans. Donc, tout ce qui est informatique, etc., c'est un petit peu compliqué pour eux. C'est plutôt logique. Donc, en fait, moi, j'ai dit à mon beau-père, vous supprimez le mail, quoi. Parce qu'en fait, ça pourrait très bien être les pirates. Je trouve ça assez comique de recevoir un mail où, à la limite, on vous dit ne cliquez pas sur les liens parce que vous pourriez être piraté. On ne sait pas si c'est les pirates ou c'est réellement un mail des impôts, quoi, clairement.
Oui, alors c'est sûr que la réalité, c'est que si vous êtes sur ces listes, justement, de données perdues, il faut être vigilant. C'est ça qui va être dit dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années même. Il faut être vigilant parce qu'il y a des informations sur vous qui circulent, ce qui fait de vous une proie, justement, pour des voleurs, des escrocs, des cambrioleurs. Laurent, ça vous agace un petit peu, j'ai l'impression, que ces piratages en série.
En fait, quand on dit que je suis assistant administratif, je m'occupe de la facturation pour une société qui fait des soins à domicile.
D'accord.
Donc, un listing de plusieurs centaines de patients. Moi, je suis dans une boîte donc qui est dans le privé. On est ultra protégé, c'est-à-dire que je dis pas qu'on peut pas être piraté, mais on peut pas être piraté comme les États sur les impôts, sur l'éducation nationale.
Pour vous, chez vous, c'est au point en tout cas en termes de sécurité informatique. Personne n'est complètement à l'abri, mais vous.
On est suivi, on n'est pas 100% sûr, mais en fait, on est blindé logiquement, quoi. Voilà. Donc, moi, je comprends pas qu'en fait, que nous, dans le privé, on puisse suivre ça et qu'au niveau de l'État, ça soit pas, quoi. Très clair.
Mais moi, je suis assez curieux aussi de savoir. Merci, Laurent, d'ailleurs, de l'avoir précisé. Dans votre entreprise, chez vous, vous êtes peut-être patron de PME, vous êtes peut-être, dans une entreprise moyenne, dans une grande entreprise. Comment est-ce? Il y a tellement de choses qui ont été mises en place ces dernières années, ici même, hein, en termes de sécurité informatique. Je sais pas si ça suit du côté de l'État.
L'authentification à deux facteurs, par exemple. Ça existe à RMC, mais donc pas au fisc.
A priori. Laurent, merci de votre appel au 3216. Le 1er septembre, on va passer à la facturation électronique obligatoire pour un tas d'entreprises aussi. En ce moment, je trouve que la question se pose avec ces dizaines de plateformes qui vont devoir gérer la facturation. On aura l'occasion d'en reparler aussi. Il est 7h13 sur RMC. Bon, rendez-vous dans les 10 prochaines minutes, le meilleur d'Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. On va aussi retrouver Pierre Rondeau, notre économiste. On va parler des fruits et légumes dans un instant avec notre invité. Mais aussi avec vous, Pierre, parce que Meta risque une énorme prune.
Oui, presque 200 patates. Plus précisément 193 milliards de dollars. Le géant accusé d'avoir rendu accro ses ados à ses réseaux.
Et dans un instant, je vous le disais, les fruits et légumes qui se font de plus en plus rares, donc plus chers, mais plus petits aussi, plus biscornus. La faute à la canicule, à la sécheresse. Alors la grande distribution annonce des mesures de soutien pour les producteurs, les agriculteurs. Acheter des fruits et légumes moches, mais français. C'est le parti pris d'Isabelle Senan. C'est la directrice des études à la Fédération du commerce et de la distribution. Vous êtes prêts à acheter des fruits et légumes moches? Vous nous le dites au 32-16. On en parle dans une minute. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h16, vous êtes sur RMC, vous avez fait le bon choix. Les agriculteurs souffrent de la chaleur de cet été, de tous les records. Canicule et sécheresse font des ravages. Résultat en rayon, moins de produits, des fruits et légumes plus petits, pas très beaux. Bonjour Isabelle Senan.
Bonjour.
Vous êtes directrice des études de la Fédération du commerce et de la distribution. Pour le dire en un mot, vous représentez la plupart des grandes enseignes de distribution, Leclerc, Carrefour, Auchan, Intermarché, Casino, je ne les cite pas toutes. Achetez des fruits et légumes moches, mais français. C'est votre parti pris. Ce matin, vous annoncez des mesures de soutien aux producteurs. Concrètement, qu'est-ce qui change ?
Alors concrètement, ce qui change, bon déjà un petit quelques rappels en fait. Bon, il faut rappeler que les agriculteurs, c'est évident, sont un maillon indispensable dans la chaîne alimentaire française et que la distribution, la grande distribution alimentaire, est historiquement impliquée au sein de ces filières. Donc elle travaille depuis toujours avec les agriculteurs et entend encore aujourd'hui en période de crise être non, face
mais là,
à
aujourd'hui, ces difficultés. Aujourd'hui, ouais. Isabelle Senan, qu'est-ce que ça change?
Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change que la grande distribution a pris des engagements concrets qu'on a expliqués. Trois grands engagements que je peux détailler.
Hein. Allons-y.
Le premier engagement, c'est d'avoir davantage de souplesse par rapport au cahier des charges sur les fruits et légumes en particulier.
Ça veut dire que le cahier des charges, c'est le calibre, par exemple, la courgette peut être plus petite.
Exactement.
La carotte n'est pas toute droite.
Exactement, c'est tout ça en fait. L'approche, elle va être résolument pragmatique sur ses calibres, l'aspect des fruits et légumes, etc. Avec davantage de souplesse. Donc, en effet, ça peut par exemple être une catégorie de pommes qui va être d'un calibre inférieur, d'une carotte qui va être biscornue à la place d'être toute droite. Mais tout ça reste parfaitement consommable.
Oui, c'est important de le dire. On n'est pas en train de demander aux consommateurs d'acheter des produits de moindre qualité.
Absolument pas. La qualité sanitaire des produits n'est pas du tout impactée. C'est uniquement l'aspect visuel en fait du produit qui va être impacté. Donc il est important, et c'est bien de le rappeler, d'être pédagogue et d'expliquer tout cela aux consommateurs.
Et par ailleurs, vous allez encourager aussi à acheter français quand c'est possible.
Exactement. Voilà, ça c'est le deuxième engagement pris par les enseignes de la FCD. Donc privilégier les productions françaises quand elles sont disponibles. Ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, historique aussi. Hein, voilà, mettre en avant ces productions françaises pour soutenir les exploitants agricoles. Et l'objectif, c'est de soutenir l'activité sur l'ensemble du territoire pour, in fine, préserver la souveraineté alimentaire.
Et votre troisième engagement, Isabelle Senan ?
Et le troisième engagement, qui est rappelé par la FCD, c'est de maintenir ce dialogue permanent avec les producteurs.
Alors, donc, Isabelle Senan, on a une question d'un de nos auditeurs sur le WhatsApp RMC qui fait assez sens, je trouve, Élise.
C'est Eric qui nous écrit ce matin. C'est la grande distribution qui a formaté les fruits et légumes lorsque l'on voit que les agriculteurs sont obligés de jeter leur récolte car les fruits et légumes sont trop petits, trop déformés. Ça fait pas sens pour Eric. Est-ce qu'il faudrait pas pérenniser justement cette souplesse, cette tolérance envers les fruits et légumes un peu moches?
Alors en fait, ces cahiers des charges de la grande distribution, c'est pas du tout pour embêter évidemment les producteurs agricoles, mais c'est une question de logistique, de simplification de cette logistique, de permettre d'avoir des catégories, des calibres, etc. Précis et facilement reconnaissables par tous en fait. Donc des produits plus faciles à emballer, à transporter, stocker, présenter, etc.
Ouais, comment donc on veut se débarrasser des emballages, peut-être qu'on pourra faire d'une pierre deux coups, on verra. Mais Mickaël est en ligne avec nous aussi, écoutez-le Isabelle. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Vous avez, alors Mickaël, je vais le dire en toute transparence, hein, vous avez appelé le standard pour vous moquer de nous.
Oh, si peu.
Allez-y Mickaël.
Allons. Mais oui, mais les trucs beaux, c'est les trucs de citadins, ça. Vous avez vu. Ce qu'il faut, c'est que ça soit bon. Voilà, une carotte, qu'elle soit moche ou qu'elle soit belle, tant qu'elle est bonne, elle est bonne. Voilà, et un kilo de carotte moche, ça pèse autant qu'un kilo de carotte belle. Hein, c'est tout.
Et on aura autant de carottes et de vitamines, Mickaël. Alors, il y a du bon sens, cela dit. Moi, j'habite en zone rurale. Il y a les mêmes calibres, hein, dans les magasins, Mickaël.
Mais oui, mais moi, je vais au marché. Voilà.
Non, mais Isabelle, c'est le fond de la question. Aujourd'hui, on est en train de se demander pourquoi on a ces calibres-là, si en plus ça pourrit la vie des agriculteurs. Alors là, il s'agit de les aider en ce moment, mais ils ont souvent besoin d'aide, les agriculteurs.
Oui, complètement. Bah, c'est ce que la grande distribution fait et explique. Là, vraiment, on est parti sur beaucoup plus de souplesse sur tous ces critères. Donc, dans les rayons, on va retrouver des produits, comme je l'expliquais tout à l'heure, différents, des pommes plus petites, des carottes un petit peu biscornues, etc.
Alors, en raison aussi de ces intempéries, de ces questions climatiques, il y a une incidence sur les prix. Hein. On observe une forte hausse des prix des fruits et légumes. Cet été par rapport à l'été précédent, est-ce qu'on doit attendre la même chose pour l'automne? Parce que les choux, les navets, enfin ce qu'on mangera à l'automne, c'est en train de pousser et c'est en train de subir la sécheresse.
Ouais, complètement. Alors pour l'heure, il est trop tôt pour anticiper à la fois les évolutions de la production et les évolutions des prix. On n'a à date pas de consolidation en fait niveau national de tous ces éléments. Mais en effet, enfin on a vu cet été les dernières données remontées par l'INSEE.
Il y a peu de raison d'attendre un miracle en tout cas. Isabelle Senant, merci beaucoup, directrice des études de la Fédération des commerces et de la distribution. Vous représentez la plupart des enseignes de grande distribution qui s'engagent donc à acheter des fruits et légumes, y compris moches, on en sourit hein, de ce mot-là, mais hors calibre, d'acheter français quand c'est possible aussi. 7h22 sur RMC, vous nous dites si quand vous faites vos courses, vous y pensez. 32-16 ce matin, vous serez en direct avec nous. 7h22.
RMC,
le chiffre du jour.
Alors, bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
193 milliards de dollars, c'est l'amende record que risque Meta, la maison mère de Facebook et Instagram.
Oui, alors attention les yeux, mais Meta pourrait payer quasiment 200 milliards de dollars d'amende après les accusations de 29 États américains qui l'accusent d'avoir rendu les adolescents accros à Facebook et Instagram. Le procès a commencé hier et devrait durer 4 à 6 semaines. Trois choses sont reprochées à Meta: avoir doté ces plateformes de fonctionnalités conçues pour retenir les adolescents, avoir tromper le public sur les dangers de leur plateforme et des publications, et avoir collecté les données d'enfants de moins de 13 ans sans consentement parental.
Alors, 193 milliards de dollars, c'est énorme. Comment est-ce qu'on arrive à un tel chiffre?
C'est énorme et c'est précis en plus. Hein, c'est 193 milliards. Alors, la justice américaine, c'est très concret, très carré. Elle répond à des calculs très précis. Les procureurs ont estimé, sur les 29 États accusant Meta, que 9 650 000 adolescents étaient concernés par toutes les infractions citées. Et sur toutes ces infractions, chaque adolescent devrait bénéficier d'une indemnisation de 20 000 dollars. On multiplie 20 000 dollars par 9 650 000. Paf! 193 milliards d'amendes requis par les procureurs américains contre Meta. Pour bien se rendre compte de l'énormité du chiffre, cette somme représente une année entière du chiffre d'affaires du groupe de Mark Zuckerberg et trois fois son bénéfice annuel.
Est-ce qu'on peut envisager un même procès en France?
Alors un procès du même type en France est juridiquement possible, notamment à partir du règlement européen sur les services numériques. Ce règlement impose aux plateformes de limiter les risques systémiques liés à la santé mentale des mineurs. Donc s'il est avéré que Meta n'a pas respecter cette exigence européenne, une action collective peut parfaitement avoir lieu. Mais les méthodes de calcul des amendes ne sont pas les mêmes entre la France et les États-Unis. Alors qu'outre-Atlantique, on multiplie l'amende par le nombre de victimes, en France, l'amende est plafonnée. Dans le cadre d'un procès contre une plateforme numérique, cela relève de la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, qui plafonne les amendes à 4% du chiffre d'affaires mondial du groupe visé. Ici, Meta, on l'a vu, a un chiffre d'affaires de 193 milliards de dollars, soit pour la France et l'Europe, 4% de ce montant, une amende plafonnée maximum à 7,7 milliards d'euros ou de dollars. C'est quand même beaucoup.
Là, on prend, hein.
Oui, c'est quand même
en ce moment, on prend les 7 milliards et demi de dollars ou d'euros d'ailleurs. Peu importe, sauf qu'en ce moment, on censure les lois qui veulent protéger les enfants des réseaux sociaux. Ça, c'est ce qu'on fait de ce côté de l'Atlantique. Merci Pierre Rondeau. On se retrouve juste après le journal de 8h. On parlera d'un autre géant américain qui cible lui aussi les ados. OpenAI, qui lance une version spéciale 13-17 ans de son intelligence artificielle que vous connaissez, ChatGPT. Tout de suite, le meilleur de l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier.
Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, cette vague de froid qui traverse la France, on grelotte, mais pour vous, il n'y a pas de raison de paniquer.
Et non, pas de panique, hein, puisqu'en réalité, les vagues de froid se font de plus en plus rares et sont de plus en plus courtes. C'est d'ailleurs pour ça que ça nous étonne quand ça arrive. C'est la faute évidemment au réchauffement climatique. Depuis le 19e siècle, la température moyenne au niveau mondial a augmenté de 1,3 degré.
Avant, les hivers étaient beaucoup plus froids ?
Alors pas tous, mais en moyenne, oui. Oui, l'Europe a même connu ce qu'on appelle un petit âge glaciaire. Hein, un moment, c'est-à-dire un moment où les températures ont été en moyenne très basses. Et ce petit âge glaciaire, ça s'est passé entre le 16e et le 19e siècle, donc 300 ans quand même. Et la pire de toutes les années, c'était 1709, un cataclysme. Il faisait tellement froid qu'on a cru que c'était l'apocalypse et on appelle ça le grand hiver.
Il faisait combien ?
Alors, c'est tombé très vite. Hein. Dans la nuit, du 5 au 6 janvier 1709, les températures chutent. Une vague polaire recouvre la France. À Paris, on passe à moins 18 degrés. À Bordeaux, il fait moins 20. À Marseille, donc au bord de la Méditerranée quand même, moins 11. Et sur le plateau de Langres, on touche le fond avec moins 30.
Il faisait moins 30 degrés moins 30 en 1709. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence ?
Alors, du jour au lendemain, la vie est devenue un enfer, hein, forcément. Les rivières ont gelé. Hein. Sur la Garonne, il y avait 28 cm de couche de glace. Rendez-vous compte, d'épaisseur. Hein. Pareil pour la Seine, les autorités ont même creusé la glace pour que les bateaux puissent ravitailler la capitale. Plus fort encore, à Marseille, dans le Vieux-Port, l'eau était aussi gelée. Et ça touchait toute l'Europe, puisque une partie de la mer Baltique était gelée, elle encore. Des voyageurs pouvaient même aller du Danemark à la Suède, à pied, tout simplement. Et à Venise, les gens se déplaçaient en patin à glace.
En patin à glace à Venise. On arrivait encore à se nourrir ?
Eh bien, très difficilement, hein, puisque tous les aliments étaient gelés. Le pain, la viande, idem pour les élevages. C'était la cata, tenez-vous bien, les poules, les chevaux mouraient littéralement de froid sur place, saisis par la glace. Inutile de vous dire que les champs et les vignes ont été ravagés, donc pas de récolte cette année-là.
Comment les gens se chauffaient ?
C'est tout le problème, hein, il n'y avait pas de chauffage. Donc les gens se sont mis à brûler leur propre mobilier, hein, les tables, les chaises pour faire du feu. Et personne n'était épargné. Même au château de Versailles, on grelottait le vin gelé dans les bouteilles et dans les verres. Les seuls alcools qui ne gelaient pas, c'était la vodka et le rhum. Pas très pratique pour se nourrir. Et évidemment, quand ça a dégelé, la glace a provoqué des inondations. Bref, la totale. Donc vous voyez, Apolline, on a de la marge.
Arthur Chevalier, qu'on retrouve en podcast sur l'application RMC. Dans un instant, la météo d'aujourd'hui, hein, pas celle de 1709 où il faisait moins 20 à Bordeaux avec Géraldine Demory, même si ça se rafraîchit un peu. Et puis les piratages informatiques. 50 jours pour découvrir qu'on a toutes ces centaines de milliers de données fiscales dans la nature. On en parle juste après le journal de 7h30. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Est-ce bien le corps de la TikTokeuse Sonia Belina ? C'est probable, disent les enquêteurs avant les analyses de cette dépouille calcinée retrouvée dans des vignes du Gard. L'influenceuse avait rendez-vous avec un homme au moment de sa disparition. Le gouvernement s'excuse pour les fuites de données, des mesures annoncées et des hackers qui, en plus des impôts, ont ajouté l'éducation nationale à leur tableau de chasse. Et puis les derniers évacués des incendies des Landes doivent rentrer chez eux d'ici ce soir. RMC s'est rendu au cœur de la cellule d'aide psychologique qui prend en charge les sinistrés.
Les enquêteurs avancent sur l'identification d'un corps retrouvé calciné dans le Gard.
Dépouille découverte la semaine dernière dans des vignes qui pourraient être celui d'une influenceuse, Sonia Belina, tiktokeuse de 29 ans aux 260 000 abonnés. Julie Bros, ses proches assurent qu'elle a disparu juste après s'être rendue à un rendez-vous avec un homme.
Oui, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, la grande sœur de Sonia Belina assure que l'influenceuse n'a plus donné signe de vie depuis la soirée du 11 août, jour où elle avait, je cite, « rendez-vous avec un homme qu'elle fréquentait ». À 1h du matin, elle nous a dit « je vais voir quelqu'un », puis 1 heure plus tard, son téléphone s'est éteint et depuis, plus rien, dit-elle. Il y a une semaine, c'est un ouvrier agricole qui a retrouvé un corps gisant au milieu des vignes, un corps partiellement calciné qui pourrait correspondre à celui de l'influenceuse de 29 ans, s'indigne Maître Mourad Batik, avocat de la famille de Sonia.
Sonia a subi un crime odieux, un crime crapuleux, un crime d'une violence extrême. Et donc évidemment, la famille aujourd'hui est absolument détruite, dévastée. Quand ils ont appris, c'est le sol qui s'est dérobé sous leurs pieds et le ciel qui s'est écroulé sur leur tête.
Des analyses ADN doivent encore confirmer avec certitude que le corps est bien celui de la jeune femme, rappelle le parquet de Nîmes, chargé de l'enquête ouverte pour assassinat.
Julie Bro du service police-justice de RMC. Une troisième cyberattaque contre le fisc annoncée par le gouvernement hier. Les impôts, 700 000 contribuables touchés, puis les fichiers cadastraux et maintenant les successions vacantes. Fuite stoppée, assurait hier le ministre des Comptes publics, David Amiel, qui s'est engagé à renforcer la formation des équipes, les protocoles de sécurité et qui s'est aussi excusé.
On imagine sans peine l'état d'esprit de la personne qui apprend que son revenu, son adresse, son courriel, c'est un nombre d'informations liées à sa situation fiscale, le revenu fiscal de référence par exemple, sont potentiellement à la portée de tout acteur malveillant. À chacune des personnes concernées, je tiens à présenter nos excuses. Parce que ce qui est arrivé est insupportable pour les Français et non seulement comprend leur colère, mais je crois pouvoir dire que cette colère, avec la directrice générale des finances publiques, nous la partageons.
Et autre mesure promise, mettre en place une rémunération pour les hackers qui trouveraient des bugs et en informeraient les autorités. Autre cyberattaque revendiquée cette fois, ce sont des élèves et des personnels de l'éducation nationale qui ont été touchés. 346 millions de données issues des 20 dernières années ont été aspirées. Numéro de téléphone, mail et adresse postale.
Alors vous avez entendu le ministre des Comptes Publics qui présente ses excuses. Est-ce que vous les acceptez déjà? Est-ce que ça vous agace? Ça vous met en colère? Est-ce que ça vous fait peur aussi? Lui, il est en colère. Jean-Baptiste Souffron, secrétaire général, ancien secrétaire général du Conseil National du Numérique, avocat en droit du numérique, c'est mon invité. Juste après votre journal, vous continuez à réagir au 32-16.
Patrick Bruel, de retour en France, c'est en tout cas ce qu'assurent ses avocats. La justice, souvenez-vous, avait allégé le contrôle judiciaire du chanteur mis en examen, entre autres, pour viol et tentative de viol. La défense le justifie par l'absence de risque de fuite, mais c'est le risque de récidive qui inquiète surtout maître Myriam Gadj-Benayoun, avocate de victimes présumées de Patrick Bruel.
Quand on voit que les plaignantes s'étalent sur plusieurs dizaines d'années dans nombreux territoires en dehors de la France, au Canada, en Suisse, en Belgique, on se demande s'il ne faudrait pas protéger la société. On est quand même assez surpris, voire choqué de cette décision. Il est évident qu'on a une personnalité particulière, publique, et que ça joue dans les décisions aujourd'hui des juges d'instruction.
Ils vivent leurs dernières heures hors de chez eux. Les évacués de l'incendie des Landes près de Luglon pourront rentrer d'ici ce soir. Un retour très attendu mais qui ne guérit pas tout, notamment pas la souffrance psychologique de certains qui se rendent encore à la cellule d'aide dans laquelle vous vous êtes rendu pour RMC, Victor Girard.
Les images des flammes encore dans sa tête, disons 13 ans, n'est pas prête d'oublier l'incendie.
Voir votre village dans lequel vous habitez depuis toujours brûler sous vos yeux, c'est comme s'il y avait un de mes animaux qui était mort. Je vais être marqué jusqu'à la fin de ma vie.
Une cellule de soutien psychologique a donc été déployée en face de la mairie de Luglon pour accompagner les habitants.
Ça m'a fait du bien, je m'appelle Anne.
J'arrive à rien faire d'autre que d'être assise et d'attendre que ça passe.
C'est une réaction post-traumatique.
Du traumatisme, mais aussi de l'épuisement chez Claudine, appuyée sur des bâtons de marche. Elle prépare les repas des pompiers depuis 5 jours.
Matin, midi et soir, des sandwichs. On n'a pas de vraie cuisine, on fait vraiment comme on peut. Et j'ai eu deux jours où je n'ai pas pu venir parce que je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas m'asseoir. C'est dû à la tension qu'on a eue, à la montée, mais je ne l'ai pas senti arriver. Je pense que c'est dû à ça.
La retraitée est donc également partie se faire masser comme d'autres habitants.
Est-ce que vous avez des douleurs?
C'est Isabelle qui s'y colle.
Allongez-vous et profitez.
Elle est déjà à son 7e rendez-vous de la journée.
Il y a des tensions, on sent sous les doigts que les nerfs sont coincés. Ils ont besoin de rentrer dans leur bulle et c'est pour ça qu'il y en a quelques-uns qui s'endorment.
D'autres bénévoles se sont portés volontaires pour continuer à proposer des massages aux habitants dans les prochains jours.
Et dans le Var et dans un contexte de baisse des températures, l'incendie du Gros Bessillon a été déclaré éteint hier. Il aura parcouru 6300 hectares et causé l'intervention de 6000 personnes, tandis qu'en Belgique, les pompiers sont sur le point d'encercler l'un des plus grands feux de l'histoire du pays. Promulguée hier soir par Emmanuel Macron, la loi fin de vie doit être inscrite au journal officiel aujourd'hui. Ultime étape avant son entrée en vigueur après 4 ans de bataille parlementaire. La Turquie rejette en bloc les accusations d'Israël. L'État hébreu assurait qu'Ankara était prête à envoyer des troupes en Syrie, justifiant, selon lui, la frappe israélienne sur une base syrienne, frappe condamnée par les États-Unis.
Il est 7h37 sur RMC, on passe au foot avec un champion du monde 98 qui devient sélectionneur.
Alors, pour Zinedine Zidane, vous le saviez déjà, c'est au tour de Patrick Vieira, nommé officiellement à la tête de l'équipe du Sénégal hier, Arthur Perrault.
Oui, l'annonce a été faite par la Fédération Sénégalaise de Football sur ses réseaux sociaux. Patrick Vieira, originaire du Sénégal, va prendre la succession de Pape Thiaw à la tête des Lions de la Teranga. Une décision prise après une Coupe du Monde décevante l'été dernier, une élimination dès les 16e de finale par la Belgique. L'ancien défenseur d'Arsenal dispose déjà d'une solide expérience sur les bancs de touche à New York City, à Nice, mais aussi à Strasbourg. Un dernier club français avec lequel il n'est resté qu'une seule saison pour une décevante 13e place de Ligue 1. C'est la première fois qu'il enfile le le costume de sélectionneur au moment même où son ancien coéquipier Zinedine Zidane s'installe en équipe de France. Vieira aura pour premier objectif de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2027.
Et le foot et ce bon match nul pour Lyon, match aller des barrages de Ligue des Champions en Turquie contre le Fenerbahçe. Score final un partout avec l'égalisation pour les Turcs d'un superbe but de l'ancien Marseillais Mason Greenwood. L'Olympique Lyonnais est en bonne position avant le match retour à domicile mercredi prochain.
Les courses avec le quintet sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville à 15h15.
Le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Sa favorite, c'est le numéro 4, Bassanti. L'outsider, c'est le numéro 7, Hello Avenue, ouais. Le 4 et le 7.
Et Laurent est en ligne avec nous au 32-16 ce matin. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques, Laurent. Vous réagissez à la question des fruits et légumes moches. On nous explique aujourd'hui que la grande distribution va faire un effort sur le calibrage de nos aliments pour aider les agriculteurs qui ont souffert de la sécheresse, Laurent.
Oui, ben en fait, c'est la grande distribution qui formate un peu tout le monde, quoi, hein. C'est eux qui ont des exigences pour les producteurs depuis des années. J'ai travaillé dans un marché d'intérêt national où déjà il y a 20 ans, ils nous demandaient d'avoir des calibres précis, etc. Et donc les producteurs ont dû effectivement s'adapter à cette demande. Et aussi, c'est la grande distribution qui formate le consommateur, hein, parce que la plupart des gens vont acheter leurs fruits, légumes et toute production dans ces magasins-là, et donc ils n'ont pas le choix que de prendre leurs produits préformatés et ils mettent la
vous dites, c'est eux qui ont commencé, si je comprends bien. Alors, vous avez entendu la représentante du commerce et de la distribution qui nous expliquait des questions d'emballage, de logistique, de transport. Il y a un caractère plus pratique, finalement, à avoir ces fruits et légumes calibrés.
Dans un cajou, qu'on mette un fruit tordu ou une carotte tordue, une carotte droite, à un moment donné, faut pas faire dire n'importe quoi non plus. Dans un sac en plastique, qu'on mette une carotte droite ou tordue, ça n'empêche qu'on a les mêmes volumes. C'est un
formatage. Arrêter l'emballage plastique, finalement, on va réussir à faire d'une pierre deux coups. Laurent, merci beaucoup. Comment ?
Bonne journée.
Ouais, bonne journée à vous, Laurent. Pardon, j'entendais pas la fin. Merci d'avoir réagi au 32-16. Est-ce que, pour venir en aide aux agriculteurs, revenir à quelque chose d'un peu normal, finalement, les fruits et légumes moches, c'est-à-dire normaux, non calibrés, vous nous le dites au 32-16, comme Laurent, ce matin, on en parle. Puis vous avez aussi constaté les prix des fruits et légumes de cet été. Là aussi, vous pouvez réagir. Il est 7h40.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
La France ne s'est pas protégée ses données au cours de cette année, d'innombrables piratages, des fuites de données ultra sensibles, massives. Vous avez peut-être vu passer le hashtag France Passoire sur les réseaux ces dernières heures. Bonjour Jean-Baptiste Souffron.
Oui, bonjour.
Vous êtes ancien secrétaire général du Conseil national du numérique, avocat en droit du numérique. Comment expliquer un tel niveau d'amateurisme et puis comment blinder enfin nos systèmes? Vous allez répondre à nos questions dans un instant sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h43 sur RMC et RMC Story. Pourquoi la France est-elle un buffet à volonté pour les hackers ? Bonjour Jean-Baptiste Souffron.
Oui, bonjour.
Vous êtes ancien secrétaire général du Conseil national du numérique, avocat en droit du numérique, 700 000 particuliers, entreprises touchées, trois fuites successives, 50 jours avant que l'État ne le découvre ou en tout cas ne prévienne les victimes, le piratage de la Direction générale des finances publiques vire à la crise politique. Et encore, faut parler des vols de données à l'Éducation nationale, de l'Agence des titres sécurisés, de Santé publique France, des agences régionales de santé, du SDIS, du ministère de l'Intérieur. Le hashtag France Passoire qui émerge cette semaine sur les réseaux. On est une passoire?
Une passoire, c'est quelque chose qui laisse tout passer. C'est pas exactement ça non plus. C'est plus comme si on avait perdu un badge d'entrée dans un immeuble et que du coup quelqu'un s'en était servi pour entrer. Sauf que dans un immeuble, quand il est bien conçu, vous avez le badge d'entrée, mais vous n'avez pas les clés de tous les appartements de l'immeuble non plus. Et là, visiblement, c'est un peu là que le bât blesse et que finalement, on a l'impression peut-être que on est en train de parler de sécurité informatique comme on parlait de sécurité des sites internet en 1999 ou en 2005 et qu'on n'a pas tiré les leçons du fait qu'on est en 2026, que les attaques sont très différentes, plus difficiles, que les gens sont plus numérisés et que donc il y a aussi plus de responsabilités à avoir. Mais là où ça inquiète encore plus, c'est que d'ici quelques années...
On a du retard en fait, c'est ça?
Évidemment, bien sûr, quand on voit la situation, on a nécessairement du retard, mais c'est pas tellement le fait qu'on se fasse attaquer à l'impossible, nul n'est tenu si vous voulez. C'est la manière dont on réagit et la facilité avec laquelle ces attaques ont l'air d'avoir été faites, parce parce que quand le gouvernement explique que c'était une attaque extrêmement complexe, ça a l'air d'être totalement l'inverse quand on écoute ce que disent les hackers qui ont fait cette attaque. Eux disent, on a récupéré des mots de passe, on sait même pas s'ils ont pas acheté eux-mêmes à la suite de fuites de données précédentes, et dans ce cas-là, ils les auraient achetés pour quelques centimes, vous voyez.
Pardonnez-moi, je vous arrête, parce qu'il y a aussi des gens pour qui tout ça c'est un peu abstrait, parfois un peu vague. Je voudrais qu'on soit très clair. Quand on nous explique que c'était une attaque sophistiquée, vous dites non, c'est un mensonge, ça.
En tout cas, quand on regarde la description de l'attaque, ça n'a pas l'air d'être une attaque sophistiquée. Même si elle est restée discrète, les gens s'en sont pas rendus compte pendant un certain temps, ou en tout cas, c'est ce qui nous est expliqué. Mais la conséquence pour les gens va être très concrète, en revanche. Parce que d'ici quelques mois, qu'est-ce que ça veut dire? L'année dernière, on estime que le vol d'argent, si vous voulez, sur les comptes bancaires des gens à la suite de piratage de données, c'est 245 millions d'euros sur l'année. C'est 3000 euros en moyenne par victime. Ça veut dire qu'il y a des Français qui là ont reçu leur fiche d'imposition, et dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois, ils vont recevoir un appel de quelqu'un qui va se faire passer pour un agent du fisc, ou peut-être des attaques encore plus sophistiquées, encore plus complexes, et qui va les convaincre de faire un virement, qui va les convaincre de payer quelque chose, et à ce moment-là, ils perdront 3000, 5000, 10000, 20000 euros, et ils les retrouveront peut-être jamais. Et ça, c'est une conséquence extrêmement concrète, si vous voulez. On a quasiment l'impression qu'ils vont payer un deuxième prix, après les impôts qu'ils auront payés.
Oui, donc en fait, ce que vous dites, c'est quand David Amiel, le ministre des Comptes Publics, ou la Direction Générale des Finances Publiques présente ses excuses hier, c'est un peu court.
C'est extrêmement court. C'est-à-dire que, en 2017, il y a eu un piratage en 2017, donc il y a presque 10 ans, vous voyez, c'était en Suède. Deux ministres ont démissionné. Et là, les conséquences, je vous le répète, elles vont être concrètes pour les gens. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que c'est pas simplement des données qui circulent, ces données, elles vont être utilisées. Alors, c'est d'où, d'ailleurs, la nécessité de communiquer auprès des personnes dont les données ont été volées, parce que pour qu'elles se tiennent un peu prêtes, pour qu'elles essayent d'y penser. D'ailleurs,
là, concrètement, si je reçois le fameux mail de la Direction Générale des Finances Publiques qui m'alerte que mes données ont été volées, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être plus, faut que je sois suspicieux sur le moindre coup de fil que je reçois, la moindre proposition commerciale qu'on me fait.
Il faut être attentif, il faut être attentif.
Mais et encore. En fait, là, quand on accumule tous les piratages, on va tous tomber dans une ère de parano généralisée.
Mais le pire, et c'est ce que disent des analystes comme Tariq Rim, c'est qu'il y a les piratages qu'on connaît, mais il y a les piratages qu'on ne connaît pas. Là, celui-là, on a la chance de le connaître, mais quand on voit la manière dont le gouvernement communique et dont les choses s'organisent, d'abord, on a l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, mais surtout, on est en train de se demander.
Il n'y a pas de pilote dans l'avion.
Bien évidemment, ça donne pas le sentiment d'une grande maîtrise ou d'une grande préparation. On renvoie à des mesures qui ont été prises en avril pour essayer d'expliquer qu'il y a de l'argent qui va être dépensé, mais cet argent, c'est 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, si vous voulez, quand vous regardez le prix d'un logiciel à Bercy, c'est facilement plusieurs centaines de millions d'euros, plusieurs milliards d'euros. Et là, c'est du saupoudrage. Et on voit bien qu'il n'y a pas de prise de conscience de l'importance de ce sujet en 2026, alors que tout le monde a un téléphone dans sa poche et que les gens, les impôts, mais également la sécurité sociale, tout se fait désormais de façon informatisée. Même on vous force à vous informatiser. C'est extrêmement difficile aujourd'hui de faire les choses de façon papier ou à l'ancienne. Chez les impôts, c'est encore éventuellement possible. Mais vous voyez bien qu'on ne vous facilite pas la tâche.
Non. Eric est en ligne avec nous à Bordeaux, en Gironde, et il est assez en colère, je crois. Bonjour Eric.
Oui, bonjour à tous.
C'est le bienvenu, ces fuites de données au niveau de l'État, Eric.
Non, écoutez, là, c'est catastrophique. En plus, non, mais c'est récurrent, quoi. Attendez, c'est tout le temps. Il y a pas longtemps, c'était France Travail, maintenant. Là, on apprend que c'est l'Éducation nationale. Moi, j'ai deux pages de mots de passe avec ma femme. Il y a certains sites qui vous demandent de changer tous les 15 jours. Il y a aussi, on peut contrôler avec l'identité faciale. Enfin, moi, je comprends pas, quoi. On a des gens à la tête de tout ça, des hauts fonctionnaires qui sont payés des fortunes, et on entend que les données s'en vont comme ça.
Ouais, mais Eric, l'avion, dit notre invité. Pourquoi est-ce que l'État est visé comme ça? Parce qu'il est plus sensible, parce qu'il est plus intéressant, stratégique, ou parce qu'il est plus faible?
Moi, déjà, il y a beaucoup de gens là qui commencent à se réveiller. Moi, j'ai vu Aurore Lalu, qui est députée Place Publique, qui est pas la plus agressive, si vous voulez, réclamer la démission de Monsieur Amiel. Et en fait, aujourd'hui, le ministre du Numérique, il est où dans le gouvernement? Il est au troisième rang sous du Premier ministre, si vous voulez. Il est quelque part dans un couloir à Bercy. Si le sujet est important, et vu, je le répète, que tout le monde a un téléphone dans sa poche et que tout le monde désormais fait tout par l'informatique et par le numérique, je pense que le sujet est important. Sauf que voilà, la directive NIS 2, c'est technique quand on le dit comme ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez deux authentifications pour vous connecter à un service. tous les mails gratuits aujourd'hui proposent deux authentifications. Il y a 1000 services aujourd'hui que vous utilisez tous les jours qui proposent double authentification. La directive, elle est bloquée au Parlement depuis 2025 parce que, ben, en fait, l'administration n'est pas d'accord.
Pardon, ce que vous dites, c'est que c'est pas du tout technique le problème. C'est pas du tout de la tech, du numérique. C'est un truc très politique en fait.
Il n'y a pas de solution technologique magique. Vous voyez bien que de toute façon, les attaques vont continuer. C'est quelque chose de normal. Mais dans une entreprise, par exemple, ici, là, chez vous, vous voyez bien, vous avez 1000 ordinateurs différents qui fonctionnent avec des systèmes différents, etc. Et j'imagine que votre direction informatique, ben, en fait, elle passe du temps à essayer de faire en sorte que ça marche et que vous ne vous fassiez pas hacker avant l'antenne par un pirate qui vous dirait sinon je ne vous rends pas l'antenne. Vous faites attention, vous y mettez des moyens, mais surtout vous y mettez de l'organisation et de la responsabilité. Là, on a l'impression que qui est responsable finalement de ce qui s'est passé?
Il n'y a pas
de démission, donc il n'y a pas de responsabilité, donc il n'y a pas de responsable. S'il n'y a pas de responsable, c'est normal qu'on ait ce genre de faille aujourd'hui.
Jean-Baptiste Souffron, merci beaucoup, ancien secrétaire général du Conseil national du numérique, avocat en droit du numérique, en direct ce matin avec nous. Merci à Eric aussi qui nous appelait de Bordeaux ce matin. Il est
7h51. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un tout petit instant, le portrait du jour avec Élise Dangean.
Et je vous présente ce matin le doudou de Donald Trump, mais on ne sait pas encore s'il dort avec.
Tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Le bonus RMC, c'est avec Géraldine Demory et Hollywood qui compte une nouvelle étoile depuis hier.
Ladies and gentlemen, the Hollywood Walk of Fame proudly presents Angelique Kidjo to the Walk of Fame.
Angelique Kidjo, la chanteuse béninoise qui a inauguré il y a juste quelques heures son étoile sur le Hollywood Boulevard. Et elle devient, attention, la première chanteuse africaine à être intronisée sur le Walk of Fame à côté des Beatles, de Céline Dion ou encore d'Elton John. L'artiste qui continue d'écrire sa légende, elle a été la seule artiste au monde à rafler 5 Grammy Awards pour meilleur album de musique. En 2008, c'est l'album Gin Gin qui lui permet de gagner son premier Grammy. À 66 ans, l'artiste qui est très engagé pour les femmes et les enfants obtient la 2854e étoile du Hollywood Walk of Fame. Pour elle, cette étoile, c'est le symbole d'un espoir que beaucoup de gens restent ouverts à toutes les cultures, même dans un monde de chaos et de violence.
Yo, chanteuse béninoise sur le Hollywood Walk of Fame. Il est 7h53. Le portrait du jour avec vous, Élise Dangean. Et son nom ne vous dira rien, mais pourtant il est sur toutes les lèvres aux États-Unis. Élise, vous nous parlez ce matin de Natalie Harp, l'assistante personnelle de Donald Trump.
Citée notamment par un sénateur démocrate qui questionnait dimanche le sens des priorités du président américain en pleine guerre contre l'Iran. Il ne veut pas faire le boulot de président, il veut juste construire sa salle de bal et voyager avec Natalie, avec, comme sous-entendu, vous l'aurez compris, que la plus loyale conseillère de Donald Trump serait aussi sa maîtresse.
Une loyauté qui remonte au moins à 2019.
Natalie Harp est alors invitée sur le plateau de Fox News pour raconter son combat contre son cancer des os et remercier Donald Trump de lui avoir, je cite, sauvé la vie grâce à sa loi Right to Try qui donne accès à des thérapies expérimentales. Elle leur dira l'année suivante lors de la convention du Parti républicain.
Because I wouldn't be alive today if it wasn't for you.
Sans vous, je ne serais plus là aujourd'hui, lance la Californienne très à l'aise devant les micros puisque c'est une ancienne animatrice de télévision pour la chaîne pro-Trump One America News Network, un job qu'elle abandonnera en 2022 pour devenir donc l'assistante du milliardaire.
Alors, assistante ou imprimante?
Natalie Harp est en effet surnommée l'imprimante humaine, imprimante qu'elle a toujours sur elle pour sortir n'importe quel document à Donald Trump, qui n'aime pas lire sur écran. D'ailleurs, elle a accès au téléphone du président américain et gère ses posts sur son réseau social Truth Social.
Lying against Project 25, which she knows, and so do all Democrats, that I have absolutely nothing to do with.
Exactement.
Alors, depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, Natalie Harp ne le quitte plus d'une semelle.
Elle est de tous les déplacements, publics comme privés, des greens de golf au sommet de l'OTAN. D'ailleurs, c'est l'une des rares à avoir été mise à l'abri avec le président à son retour de Turquie le mois dernier, lorsqu'il a dû changer d'avion par crainte d'un potentiel attentat, ce qui n'a pas été le cas du secrétaire d'État Marco Rubio, par exemple.
On doit comprendre que Donald Trump Trump ne peut plus se passer de Madame Harp.
Eh ben, en fait, c'est un peu comme son doudou, son binky, selon deux journalistes du New York Times, qui la décrivent comme une présence rassurante pour le président, une relation qualifiée de malsaine par le frère de Nathalie Harp, avec qui elle n'est plus en contact, mais qui s'est confiée à un tabloïd américain. Elle ne me quittera jamais. Voilà ce qu'a confié Donald Trump lui-même.
Merci, Élise. On en sait plus sur Madame Harp, dont les Américains parlent beaucoup en ce moment. 7h56, tout l'été, des reportages près de chez vous, 5 mois après les élections municipales.
RMC,
dans vos villes.
Et rendez-vous à Bonneval, on est en Eure-et-Loire, pas très loin de Chartres. Hein. Le maire Éric Jubert lance à la rentrée le chantier de son mandat, la rénovation de l'église Notre-Dame de Bonneval, église du XIIIe siècle. L'immense majorité des quelques 42 000 églises en France sont gérées par les communes. C'est à elles de les entretenir et c'est un énorme budget lorsque de grandes rénovations deviennent nécessaires. Romain Cluzel est parti à la rencontre de ce maire d'Eure-et-Loire qui se bat pour conserver le patrimoine de sa commune.
Et tu fais le guide, Daniel, t'as plus l'habitude que moi.
Je monte ?
Ouais.
Allez.
Accompagné de son adjointe, Daniel Borde.
Là, on vous amène à la charpente.
Au milieu des colonnades, sous la grande rosace du chœur, le maire de Bonneval, Éric Jubert, inspecte les hauteurs de l'église de sa commune, construite au XIIIe siècle.
Il y a des bouts de charpente qui sont en mauvais état.
Dès qu'on voit la lumière du jour, c'est pas bon signe.
Ouais. Là, on a des infiltrations, on a vraiment les chevrons qui sont pourris.
Cette charpente, elle va justement connaître une seconde jeunesse. Les travaux doivent commencer en septembre, première étape d'une rénovation d'ampleur sur plusieurs années, parce que d'autres parties de l'église auraient aussi besoin de réparation. C'est le cas du clocher. Depuis leur dernière visite, une planche usée par le temps et l'humidité s'est détachée de la structure.
Ça n'y était pas, ça se dégrade quand même.
Mmh. Bah, ça me fait mal, surtout que je sais que... On va pas aussi vite qu'on voudrait pour la rénover.
Mais bon, c'est parti pour, donc...
Bon, c'est parti, mais on n'est pas au bout quand même
non.
Trouver les financements. Non.
Le financement, c'est la difficulté principale pour ce maire passionné du patrimoine de sa commune. Rien que pour la première étape, la charpente, Éric Jubert a dû réunir 800 000 euros avec des aides de l'État, de la région, du département et un appel aux dons auprès des habitants. La commune met, elle, 250 000 euros sur la table.
Pour une commune comme la nôtre, de à peine 5 000 habitants, c'est un budget très très lourd. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on est obligé de programmer sur plusieurs années. On aurait besoin d'une salle omnisports, par exemple, parce que celle qu'on a est très très vieille. Pour l'instant, on l'a repoussée à beaucoup plus loin. On ne peut pas mener plusieurs chantiers comme ça, aussi importants, en parallèle.
Des sacrifices compris par les habitants comme Maxime et Lucie.
C'est un certain coût, ça peut faire peur, mais je pense qu'il faut conserver le patrimoine et l'image de la ville. En plein centre-ville, c'est vrai que avoir quelque chose de beau, de rénové, c'est plutôt agréable aussi à voir.
Moi, j'ai des enfants et oui, si ça laisse de côté le sport... Mais bon, c'est comme pour nous, dans le budget, il faut faire des choix.
Le maire espère réunir d'autres fonds d'ici 2028 pour lancer la suite des travaux. Montant total attendu, 2,6 millions d'euros pour rénover l'église. En attendant, il faut épargner le plus possible la structure. Et le prêtre de la paroisse, Louis-Marie Cuisinier, a donc dû s'adapter.
À chaque messe, je me dis, on va mettre les cloches. Mais je n'avais pas conscience forcément que le clocher était à surveiller.
Les cloches, quand elles sonnent, forcément, la charpente travaille. Comme elle est un petit peu fragilisée, bon, faut quand même... un petit peu limité, quoi.
Depuis Pâques, on ne sonne plus les heures. Pour ménager le clocher, on ne fait pas sonner à chaque office. Par exemple, les messes en semaine, je ne fais pas sonner.
Éric Jubert en est conscient. Ce chantier, il occupera une bonne partie de son temps pendant tout le mandat et peut-être le suivant.
Merci Romain Cluzel. Vous restez bien sur RMC à suivre la météo et le journal. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Un bon réveil avec RMC. Il est 8h02.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une, plus de tolérance dans les supermarchés.
Plusieurs enseignes de la grande distribution s'engagent à être plus flexibles sur les tailles et l'apparence des fruits et légumes. Très petits cet été à cause de la sécheresse. Après les impôts, l'éducation nationale, les données de millions d'élèves et d'enseignants dans la nature, cyberattaque revendiquée par le même groupe de hackers et puis 3 noyades évitées de justesse. On vous raconte ce sauvetage in extremis en Normandie grâce à un policier au repos.
Des fruits et légumes plus petits sur les étals.
C'est une des conséquences de la sécheresse historique de cet été qui a aussi considérablement fait chuter les rendements et fait augmenter l'inquiétude des producteurs. Leur appel a été entendu en attendant les aides de l'État. C'est la grande distribution qui annonce des mesures de soutien, des paiements plus rapides et surtout de la tolérance sur les calibres, sur l'aspect aussi des fruits et légumes auxquels vont devoir aussi s'habituer les consommateurs. Amélie Courtet.
Dans le chariot d'Adeline, une tomate jaune côtelée.
Mais voilà, pas très belle, mais...
Quelques taches brunes sur le dessous, un coût plus élevé.
Elle sera bonne. On vise français et je suis prête à faire un effort de payer un peu plus cher, mais si ça retombe dans la poche des agriculteurs, c'est OK.
Tant pis pour la forme, la couleur, comme dirait Michel.
Chez mes parents, il y avait un grand jardin et on mangeait des carottes, qu'elles soient tordues ou droites. La soupe était aussi bonne.
Sur le parking de ce supermarché, la sécheresse subie par les maraîchers, on en a conscience.
Les pauvres, ils souffrent. Hein.
Alors le soutien de la grande distribution...
Bah, il était temps, hein. S'ils s'y mettent, je dis bravo.
Et justement, certains ont déjà commencé. Moins de salades, de tomates cet été dans ces rayons. Jean-Baptiste Doumerou, directeur d'un Intermarché, est donc plus tolérant.
On accepte tous les produits qu'on refuserait normalement. En termes de qualité, en effet, en termes de calibre. Parce qu'on se pose pas la question. On tire pas sur la main qui nourrit. C'est une leçon.
Mais ces efforts doivent aller plus loin, appelle l'agricultrice Marie-Amélie Viargue.
On a vraiment besoin d'un coup de pouce économique aussi, pas juste on va être moins regardant sur l'aspect. Ils ont des marges.
Les distributeurs affirment déjà rogner sur leur marge pour contenir la hausse des prix. Plus 13% par exemple pour les courgettes, tomates, aubergines par rapport à l'an passé.
Le gouvernement présente ses excuses après une troisième cyberattaque contre le fisc. Moins sensible que le vol des données d'environ 700 000 contribuables, celle-ci concerne les cadastres et les données liées aux successions. Nos systèmes d'information comportent des faiblesses, reconnaît le ministre des Comptes publics, David Amiel. On pourrait en dire autant du côté du ministère de l'Éducation nationale, victime à son tour du même groupe de hackers Zero Byte qui revendique le vol des données de plusieurs millions d'élèves étalés sur une vingtaine d'années en arrière, des noms, des adresses mail et postales, et beaucoup d'inquiétudes pour les parents et les élèves que vous avez rencontrés, Philippine Boulet.
À la rentrée, Tsipora va rejoindre l'Éducation nationale. Elle figure donc déjà dans les fichiers. Il y a 5 jours, elle reçoit un mail inattendu.
M'informant que mes données ont été piratées.
Et la liste des informations volées est longue.
Nom, prénom, genre, adresse email, adresse postale, numéro de téléphone, ville de naissance, date de naissance, nationalité.
C'est inquiétant. Un message face auquel elle se sent bien impuissante.
Je peux pas porter plainte, je peux rien faire. Qu'est-ce que je fais?
Mais les membres du personnel ne sont pas les seuls touchés. 22 millions d'élèves de la maternelle au lycée sont aussi concernés, selon le site French Bridges, de quoi tracasser Faustine, bientôt en classe de 6e.
Moi, je veux pas qu'on sache des choses sur moi, j'ai envie de rester tranquillement chez moi.
Son père, Thomas, a une seule question en tête.
Ça sert à quoi? Ça sert forcément à quelque chose parce qu'ils vont toujours trouver un moyen de le vendre à quelqu'un. On se dit, on est d'un coup vulnérable ou les enfants sont vulnérables.
Aziza a 4 enfants. Sur Internet, elle veille à préserver au maximum leur anonymat.
Je ne poste pas de photos de mes enfants.
Elle regrette que l'État n'ait pas la même vigilance pour protéger leurs données.
À eux de faire le nécessaire. Il faudrait qu'ils soient un peu plus vigilants pour justement bloquer l'accès à ces informations qui sont très très confidentielles.
Après cette fuite de données, elle compte sur les établissements scolaires pour contrôler davantage les visiteurs.
La loi sur l'aide à mourir promulguée par Emmanuel Macron après le feu vert la semaine dernière du Conseil constitutionnel. Cette loi permettra à certains patients de s'administrer un produit létal en présence d'un soignant en cas d'affection grave et incurable en phase terminale ou avancée, de souffrance physique insupportable et à condition d'être capable d'exprimer un choix éclairé jusqu'au dernier moment. Paru également au journal officiel ce matin, la loi d'urgence agricole pour répondre à la colère des agriculteurs qui réintroduit notamment des pesticides autrefois interdit.
Il est 8h06 sur RMC dans le Var. Après des mois de combat, l'incendie du Gros Bessillon est officiellement éteint.
Annonce de la préfecture hier soir, 6300 hectares partis en fumée. C'est le feu le plus long de l'histoire du département. L'heure de la reconstruction désormais dans tous ces départements en proie aux flammes. Cet été, depuis la Gironde, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait mis la pression en début de semaine aux assureurs, leur demandant de jouer le jeu et donc d'aller vite. Mais Alexandre Thibault, on ne peut pas dire qu'ils prennent leur temps. Les sinistrés commencent déjà à être dédommagés.
Oui, l'un d'eux me disait qu'en moins d'une semaine, il a été remboursé pour l'ensemble des destructions à l'intérieur de sa maison. Il a aussi reçu 500 euros de son assurance pour s'acheter des vêtements et 3 semaines de loyer pour son logement provisoire. Des moyens donc pour des milliers de sinistrés. 1220 chez Crédit Agricole Assurance, 2600 à la Massif et 3000 pour le groupe Covea qui regroupe la MAF, GMF et MMA. Covea qui relève 35 millions d'euros de dégâts pour le moment, car les chiffres évoluent, tout le monde n'a pas encore déclaré son sinistre et la date pour le faire a été repoussée au 31 août. Quoi qu'il en soit, on répondra présent, assure un des poids lourds du secteur. Il glisse même qu'ils ne regarderont pas tout dans le détail et qu'eux-mêmes doivent être souples sur le montant des indemnisations.
Et on y revient à 8h40 tout à l'heure avec Yann Arnaud, directeur assurance dommage à la Massif, qui a peu goûté les critiques du Premier ministre en Gironde lundi. On en vient à ce sauvetage en début de semaine en Normandie.
Trois adolescents de 15 à 18 ans sauvés de la noyade près d'Étretat à Saint-Jouin-Bruneval. Romain Houck, sauvé par un policier qui était en repos. Il a témoigné ce matin sur RMC.
Il est environ 21h à Saint-Jouin-Bruneval. Sébastien, policier au repos et élu de la commune, profite de sa soirée en compagnie de sa femme, attablée dans un restaurant de plage. Son regard se tourne alors vers la mer.
J'ai vu une dizaine de personnes commencer à se baigner, mais alors pile là où il fallait pas, c'est-à-dire dans le courant. Certains ont commencé à s'éloigner un peu plus du bord.
Très rapidement, la situation dégénère. Trois jeunes de 14 à 16 ans se retrouvent en grande difficulté. Sébastien se rue sur la plage et emprunte le paddle d'une baigne.
J'ai pas hésité une seconde, je me suis mis à l'eau, j'ai ramé pour aller jusqu'à la première personne qui commençait à boire l'eau.
Tant bien que mal, il parvient à charger deux des trois ados sur la planche.
C'était compliqué, il y avait quand même quelques vagues et j'ai nagé à contre-courant parce que je pouvais pas éviter le courant, on était trop lourd. Et donc j'ai bataillé pendant 40 minutes pour pouvoir essayer de regagner le rivage comme je pouvais.
Entre-temps, les secours arrivent pour les prendre en charge, les pompiers, un hélicoptère. Presque miraculeusement, le troisième adolescent parvient à regagner la rive par lui-même. Tous sont désormais sains et saufs. Et Sébastien, lui, n'a aujourd'hui qu'un souhait.
Les jeunes étaient épuisés de la situation. Donc moi, mon but aujourd'hui, ce serait de pouvoir les rencontrer. Oui.
Un geste héroïque qui rend fière toute une commune. La mairie a d'ailleurs salué le sang-froid et la réactivité de son élu.
Récit signé Romain Houck pour RMC. En football, l'Olympique Lyonnais a une victoire de se qualifier en Ligue des Champions. Ils ont résisté hier face au Fenerbahçe en barrage aller, mais n'ont pas réussi à s'imposer. Match nul un partout. Victoire donc obligatoire la semaine prochaine au Groupama Stadium. Et le coach Paolo Fonseca espère que les supporters seront nombreux.
Je m'attendais à voir notre stade plein, à créer les mêmes atmosphères. Nous voulons avoir les notre supporters pour à supporter l'équipe, tout le match. Je pense que la qualification sera disputée jusqu'à la dernière minute et nous avons besoin de notre supporters.
Et puis on a appris hier la mort d'un batteur emblématique. Vous reconnaissez Mathieu? Ouais, Dizzy Top, ouais, effectivement, Frank Baird, qui est mort en soins palliatifs à l'âge de 77 ans. Hein, il était très malade, l'Américain ne jouait plus depuis quelques temps à cause de ses problèmes de santé. Le groupe légendaire, hein, originaire du Texas, annule plusieurs concerts avant de reprendre sa tournée ce week-end.
Merci beaucoup, Clara Gabillet. Il est 8h10 sur RMC et Sophie est en ligne avec nous depuis l'Oise. Bonjour Sophie.
Bonjour l'équipe.
Soyez la bienvenue Sophie, vous avez réagi à cette annonce des distributeurs, de la grande distribution qui veut venir en aide aux agriculteurs en revoyant les calibres, en achetant les fruits et légumes moches, pour le dire simplement.
Oui, franchement, enfin, qu'est-ce qu'on en a à faire du calibre, de tant qu'elles sont bonnes et puis que les prix sont pas trop... Moi, j'achète plus tellement dans les grands magasins justement parce qu'elles sont... Je connais pas leur système de refroidissement, mais quand on arrive chez nous, les légumes, les fruits, ils ont plus de goût, ils sont tout rabougris. Moi, j'achète à la ferme, sur les brocantes, au marché, des gens aussi qui en ont eu trop, qui en donnent. Et franchement,
les fruits et légumes normaux, parce qu'on dit moche.
Ouais, enfin, mais... ils ont tous le même goût. C'est pas, c'est même rigolo des fois les tronches qu'ils ont. Franchement, c'est.
Alors
c'est...
après, très sincèrement, je suis d'accord avec vous, Sophie. Ça amuse beaucoup les gamins en plus. Mais on fait un peu le procès de la grande distribution ce matin sur cette histoire de calibrage, parce que c'est eux qui l'ont imposé, etc. Mais eux vous diront aussi que les clients achètent le fruit qui est brillant, qui est beau, qui a la bonne forme. Hein. C'est aussi le client qui doit être responsabilisé, non, Sophie?
Ah si, oui, je suis tout à fait d'accord, bien sûr, évidemment, c'est comme tout en fait dans la vie, hein. c'est toujours le paraître, et je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas que la grande distribution, ils répondent à l'attente des oui. gens et de mais bon voilà, quand il n'y a plus rien, de toute façon on sera bien obligé de s'y faire et puis c'est bon, pas grave.
La question
quoi.
Ce sera aussi à quel prix, hein, avec la sécheresse, puisque moins de production et la même demande, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études à HEC pour comprendre que les prix vont augmenter encore. Sophie, merci beaucoup. On pose la question ce matin, est-ce que vous êtes prêt à acheter des fruits et légumes moches? Sophie dit oui, sans souci, qui se moque des calibres de la grande distribution. Il est 8h12. Val-de-Brié, en Meurthe-et-Moselle, 8000 habitants et plus d'urgence adulte à l'hôpital jusqu'au 25 août. Faute d'urgentiste, je dois prendre mes responsabilités, dit le directeur de l'hôpital, Dominique Peljac. C'est notre invité dans un instant sur RMC, RMC Story. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 8h15, vous êtes sur RMC, RMC Story. Très bon réveil, c'est l'été. Et parmi les sujets auxquels on s'habitue en période estivale, la fermeture des services d'urgence, souvent en zone rurale, faute de personnel suffisant. Parfois, c'est un service qui est réduit. Saint-Louis, dans le Haut-Rhin, Lillebonne, en Seine-Maritime, Sainte-Foy-la-Grande, ça c'est en Gironde. Et à Val-de-Brie, en Meurthe-et-Moselle, 8000 habitants, les urgences adultes de l'hôpital Maillot sont fermées. Pas de médecin urgentiste disponible. Une décision qui est assumée par notre invité. Et je le remercie d'accepter de nous répondre. Bonjour Dominique Peljac.
Bonjour à vous, merci de m'accueillir sur votre antenne.
Vous êtes le directeur général du CHR Metz-Thionville et de l'hôpital Maillot de Val-de-Brie. Alors ce matin, Val-de-Brie, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé ?
Alors ce qui est ouvert, bien évidemment, c'est l'hôpital. Vous avez parlé de fermeture, l'hôpital n'est absolument pas fermé. Ça c'est très très important, la population doit continuer à venir dans l'établissement, bien évidemment. Sur la partie urgence, vous avez parlé des urgences adultes. Effectivement, c'est sur ce secteur que nous avons des difficultés. On va y revenir. Mais la partie obstétricale, la maternité, les urgences pédiatriques sont totalement ouvertes. Et j'invite encore une fois la population, bien évidemment, à venir si besoin.
Alors, combien d'urgentistes est-ce qu'il vous manque exactement ?
Alors, sur notre établissement Val-de-Brie, qui est le nord de la Meurthe-et-Moselle, nous sommes actuellement sur 4 urgentistes, postes d'urgentistes vacants, vous voyez, sur 10, ce qui peut, effectivement, ce qui nous conduit à des difficultés en période estivale, vous l'imaginez bien.
Voilà, et vous avez du mal à recruter avec une particularité régionale, pour vous, et j'insiste pour nos auditeurs, c'est qu'il y a une concurrence avec le Luxembourg.
Alors oui, effectivement, nous sommes à 3 frontières dans notre territoire, avec effectivement la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg. Et c'est une différence de rémunération majeure qui existe entre les pays voisins et nos établissements publics et privés d'ailleurs.
Oui, vous avez des médecins urgentistes diplômés français qui pourraient assurer les remplacements, qui préfèrent aller au Luxembourg parce que c'est mieux payé.
Et d'aller au Luxembourg ou dans une structure privée pour lequel les rémunérations sont largement plus élevées qu'à l'hôpital public, oui.
Faute de personnel, ça veut dire quoi ? L'été, on a notre santé qui est au rabais ?
Alors absolument pas. Ce qui est important de rappeler pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont effectivement dans le nord Meurthe-et-Mosellan, c'est que toutes les urgences vitales, toutes les urgences graves sont prises en charge. Sont prises en charge parce que c'est coordonné bien évidemment par l'ensemble des SAMU, que ce soit celui de Meurthe-et-Moselle ou celui de Moselle. Et par définition, les patients chroniques sont toujours pris en charge lorsqu'il y a une urgence grave. Donc il y a une continuité en tant que telle et je voudrais vraiment rassurer la population de ce point de vue-là. Vous savez,
non mais, c'est important ce que vous dites, Dominique Peljac, mais si j'entends qu'on doit être transféré parce que vous êtes coordonné avec le SAMU, etc., des kilomètres, c'est du temps et donc c'est des pertes de chance, non ?
Non, c'est l'inverse, c'est la sécurité qui joue. Vous imaginez bien que ma responsabilité, vous l'avez repris dans votre introduction, c'est précisément assurer la sécurité des patients. Vous imaginez bien que nous n'allons pas faire en sorte d'ouvrir les urgences, sauf qu'il y ait d'urgentistes. Donc, il n'y a pas d'urgentistes, nous ne pouvons pas ouvrir les urgences actuellement. Oui. Donc, la sécurité, c'est précisément d'assurer la continuité des soins en tant que tel.
Oui, oui, non, mais ça, j'entends complètement, et la responsabilité est totale dans votre explication. Vous êtes en train de nous dire, j'ai pas d'urgentiste, je ne veux pas ouvrir un service d'urgence. Ça fait un sens colossal. Mais par rapport à la normale, par rapport à un service d'urgence qui tournerait et qui serait disponible pour les habitants de Val-de-Brie, là, il y a une perte de chance.
Je redis que non. Il n'y a absolument pas de perte de chance, puisque précisément, la sécurité est assurée, je le redis, en termes d'urgence vitale, en termes d'urgence grave qui peut arriver à domicile, sur la voie publique, oui. Peu importe, les transports sont assurés par les pompiers et par le SMUR dont j'ai la responsabilité, oui. Tant en Meurthe-et-Moselle qu'en Moselle.
Oui, donc, oui, non, je précise par ailleurs que vous dirigez aussi le CHR Metz-Thionville. Donc en fait, le désengorgement de l'un pour l'engorgement de l'autre, vous êtes concerné directement sur tous les fronts. On va accueillir Lydie, oui. Qui habite chez vous, qui est policière municipale en Moselle. Bonjour Lydie.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Vous vous êtes retrouvée confrontée à la fermeture des urgences adultes de Val-de-Brie.
Oui, en fait, mon fils a ouvert l'arcade cette semaine. Ouais. Et comme je savais que les urgences étaient fermées, j'ai appelé le 15, ils m'ont envoyé à Mercy.
Ça fait quelle distance, pardonnez-moi ? À Metz, pardon.
J'ai mis 40 minutes pour y aller.
Oui, alors Lydie, je parle sous le contrôle de Dominique Peljac, qui est toujours en ligne avec nous. C'était l'arcade, c'était pas une urgence vitale, si je comprends bien.
Non, le médecin, j'ai appelé mon médecin traitant qui m'a dit qu'il pouvait pas le recoudre. Et donc, du coup, comme il était bien entaillé, il a fallu qu'on aille à Merci pour se faire recoudre.
Oui, c'est une conséquence très. Ça vous agace, Lydie, je sens un petit peu.
Bah, un petit peu, parce que on a pas mal d'hôpitaux de proximité. On en a à Yange, on en a à Brié, on en a. Mais on ne peut pas y aller, en fait.
Dominique Peljac, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas la première fois, et on a cité tout un tas d'autres hôpitaux ou services qui sont concernés par le même genre de mesures l'été. Ça devient structurel, en réalité. Dans le pays entier, désormais, en été, on doit fermer des services d'urgence.
Alors, je voudrais m'adresser à madame, si elle m'entend bien. Je réinsiste véritablement. Moi, vous savez, je suis d'ici, je suis du coin, je suis né ici. Je suis très attaché aux hôpitaux de proximité dont vous parlez, que ce soit Brié ou en Moselle à Yange. Et c'est le travail au quotidien de faire en sorte que, encore une fois, la sécurité et la continuité des soins soient assurées. Donc, je redis, urgence vitale, prise en charge. Et si, effectivement, il y a une difficulté comme on l'a en ce moment, en période estivale au mois d'août, il y a une continuité, et je vous assure, n'hésitez pas à me solliciter, madame, ou bien évidemment les autres, lorsqu'il y a le moindre problème.
Merci, Lydie, en Moselle, hein, de nous avoir appelé au 32-16. Dominique Peljac.
Alors, par rapport à votre question, oui, effectivement, il y a des difficultés, surtout sur le front que vous venez d'indiquer, et notamment dans nos territoires proches de territoires frontaliers, comme on l'indiquait tout à l'heure par rapport au Luxembourg. Mais je voudrais dire quelque chose, la solution, elle viendra de nous. Elle vient de nous parce que, précisément, nous avons fait appel à la solidarité auprès des établissements voisins, que ce soit le CHU de Nancy, que ce soit les établissements privés, etc., oui. etc. La solution, elle vient de nous. C'est-à-dire que aujourd'hui, les urgences sont également portées depuis quelques mois par les urgentistes de Metz et qui, quotidiennement, font en sorte d'apporter du temps humain, des urgentistes sur le territoire de Brié.
Dominique Peljac, directeur général du CHR Metz-Thionville et donc de l'hôpital Maillot de Val-de-Brié où les urgences adultes sont fermées. Merci d'être venu nous expliquer ce qui est une situation à la fois locale pour vous et très concrète et en même temps qui concerne de nombreux Français qui comprennent sans doute un peu mieux la situation aussi dans leur hôpital de proximité justement. Il est 8h22. Merci Dominique Peljac. On passe à l'économie avec Pierre Rondeau. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
OpenAI a lancé hier une version ChatGPT 13-17 ans. Mais pourquoi, Pierre? Dans quel intérêt?
Oui, littéralement, ils sont pas foulés sur le nom. C'est ChatGPT pour les adolescents. Le but est de donner accès à l'intelligence artificielle aux jeunes dès 13 ans, avec des options spécifiques comme les aides aux devoirs ou la recherche critique d'informations. Avec ce format spécifique jeune, l'expérience sera dite collaborative. L'application incitera l'utilisateur à se poser des questions, à tenter de faire l'exercice seul, et l'intelligence pourra faire à vos ados des exercices, des tests et des quiz pour tester leurs connaissances. De même, il y aura un contrôle du temps d'usage et l'imposition de pause si ChatGPT est trop utilisé. Enfin, l'aspect émotionnel sera renforcé. L'IA sera bridée pour éviter de laisser penser qu'elle puisse développer des sentiments trop humains.
Un moyen pour l'intelligence artificielle de capter encore plus de monde.
Mais en a-t-elle vraiment besoin? C'est vraiment la question. Parce que si l'on regarde le baromètre du numérique 2026, 48% des Français déclarent avoir recours de manière régulière à l'IA générative, plaçant la France à la 5e place mondiale pour l'adoption de cette technologie. Près de 33 millions de Français utilisent un service d'IA au moins une fois par mois. En ce qui concerne le public visé, c'est ChatGPT qui donne le chiffre et estime que 9 adolescents sur 10 utilise son IA pour apprendre, obtenir des informations ou développer des compétences. Autrement dit, ce nouveau service, ChatGPT pour les adolescents, sert juste à confirmer, délimiter et protéger l'usage, pas le renforcer.
Alors, confirmer l'usage pour aussi confirmer ses résultats économiques.
Oui, on y vient, forcément, on est sur le sujet. La croissance d'OpenAI est effectivement spectaculaire, alors que son chiffre d'affaires était de 13 milliards de dollars en 2025. Le chiffre d'affaires dépasse déjà les 25 milliards en 2026. Néanmoins, bien que ses résultats restent importants, ses dépenses d'investissement, de gestion et de traitement des données sont colossales. Plus de 34 milliards de dollars. Autrement dit, pour chaque dollar gagné, l'entreprise en dépense 1,36 $. Quand on sait que l'essentiel de ses recettes, 40%, passe par les services payants de ChatGPT, on peut imaginer que ce nouveau service pour adolescents soit un moyen de fidéliser une probable future clientèle. Money, money, money.
On
Toujours.
Et tiens, puisqu'on parle de sous, Pierre, un petit point sur les carburants.
Et puisqu'on parle de sous, ce qui est agaçant aussi, c'est que tout augmente. Les carburants augmentent. Le samplon 95 litres à 2,012 €. Le gazole, 2,22 €. C'est assez spectaculaire. Le baril aussi augmente. Donc, très certainement, ça va avoir un impact sur les prix futurs. 91,69 €. Et le gaz, lui aussi, à son tour, augmente. 63,915 €.
Bon, ben, on va se détendre maintenant, un petit peu. Hein. Il reste quoi? Il reste Arnaud Demange pour ça.
Bernard Cazeneuve vient de mettre en ligne son site internet bc2027.fr.
Oui, je propose qu'on se connecte ensemble sur son site.
Oui, allons-y.
Alors, ça charge, la photo se pixelise un peu, ça charge. Ça y est.
Bonjour. Vous êtes bien sur la page internet de Bernard Cazeneuve. Internet, c'est le futur. Nous sommes à l'aube d'une révolution. Bientôt, tout se fera par Internet. Alors, pour accompagner une France qui bouge et qui rentre dans le 21e siècle, explorons ensemble les espaces télématiques de cette page Internet. Vous avez cliqué sur Menu. Dans le menu, mon programme, mon blog, mon forum, mes photos disponibles sur mon lien MySpace en haute résolution. Vous avez cliqué sur forum. Ensemble, échangeons sur le futur. Les États-Unis et le Japon règnent ensemble sur le marché de l'électronique et des circuits imprimés, mais nous pouvons développer des magnétoscopes français haut de gamme.
Vous, je sais pas, moi je vais peut-être pas voter pour lui. On est à combien de candidats là?
Ah oh, bah je sais plus là.
Quand est-ce qu'ils sortent l'album Panini? Avec les vignettes des 300 candidats dans les cours d'école, les mômes s'échangeront les autocollants.
Ils les arracheraient, c'est sûr.
Théo, je t'échange mon Nicolas Dupont-Aignan contre ton Glucksmann. Oh non, il est nul, ton Dupont-Aignan, j'en veux pas.
Et après, votre ado, Apolline, il va rentrer à la maison.
Maman, personne n'y veut de mon Dupont-Aignan. On peut le mettre sur le frigo?
Oh bah non, mon chéri, non, déjà que je le prends pas pour le 8h30, c'est pas pour voir sa tronche toute la journée quand même, faut pas exagérer.
Arnaud Demange, que vous retrouvez en podcast quand vous le souhaitez dans un instant, la météo, le journal, et puis Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui menace de balancer le nom des assureurs qui ne joueraient pas le jeu en Gironde. La colère et la réponse finalement d'une compagnie d'assurance, c'est à 8h45 sur RMC, RMC Story, avec le directeur assurance dommage à la Massif, c'est notre invité, Yann Arnaud, à tout de suite. Il est 8h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et on est avec Victor Pourchet pour un nouveau journal. Bonjour Victor.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous. Géraldine, vous le disait, on baisse le thermostat aujourd'hui. Canicule terminée hier. Les températures chutent encore pour clore la vague de chaleur la plus longue depuis 43 ans. L'État pris de vitesse par les hackers, constat des experts après une cyberattaque ayant visé l'éducation nationale qui en suit trois autres contre les impôts. Moins beau, moins gros, la grande distribution lâche du lest sur l'aspect de nos légumes pour répondre à l'appel à l'aide des agriculteurs frappés de plein fouet par la sécheresse.
Vous avez peut-être mis le nez dehors déjà à 8h30, vous l'avez senti. On respire enfin.
Et bientôt fini l'air irrespirable de l'été. La vague de chaleur débutée il y a 3 semaines. On devrait en sortir aujourd'hui. Les températures ont déjà bien baissé dans la moitié nord. Ça arrive dans le sud. Et à Sanary-sur-Mer, dans le Var, on attend ça avec impatience, Anna Jojard.
Le soleil cogne toujours contre les dalles blanches du port de Sanary.
Ah oui, il doit faire 30, plus de 30, facile. Encore, on a de la chance, il y a le vent qui s'est un peu levé. Ça fait un peu d'air, donc ça fait du bien.
On sent effectivement un petit peu plus de vent frais, donc c'est plus rafraîchissant. Paraît-il que dans les prochains jours, les températures risquent de baisser, donc c'est plutôt agréable.
Des températures en dessous des 30 degrés et des orages prévus à partir de jeudi.
On va respirer.
Ça fera du bien, on verra.
Si on pouvait avoir 5-6 degrés en moins, on serait ravis.
Je pense que quand la pluie va arriver, on va avoir de quoi respirer et profiter.
Profiter. Car la vie ici tourne au ralenti depuis le début de l'été.
On vit plus. Je sais même pas comment ils font les touristes.
Muriel vit dans le sud depuis toujours, mais les chaleurs de cette année ont été particulièrement éprouvantes.
Ça a été compliqué pour tout. Je suis pas allée à la plage de l'été. Maison, boulot, dodo, pour éviter de sortir par rapport à la chaleur.
Des canicules plus longues et à répétition qui font réfléchir Martine, originaire de région parisienne, à adapter ses vacances l'année prochaine.
On viendra peut-être plus tôt, parce qu'on a lieu, mais de saison. Mars, avril, voilà.
Une réflexion partagé par de nombreux touristes ici à Sanary.
Et sur le front des incendies, ça y est, l'un des plus gros de l'histoire de la Belgique est encerclé ce matin, même si les pompiers disent que la situation reste compliquée. Dans le Var, c'est la fin d'un combat d'un mois. Le feu du Gros Bessillon officiellement éteint hier soir. Et puis bonne nouvelle aussi dans les Landes, près de Luglon. Retour à la maison prévu ce soir pour les évacuer de ce feu fixé lundi.
Et juste après ce journal, une question. Yann Arnaud, directeur assurance dommages à la Massif. Est-ce que les assureurs assurent? Est-ce qu'ils ont bien pris d'être mis en cause par Sébastien Lecornu? La réponse est non, je peux déjà vous le dire. On l'aura avec nous juste après ce journal. Les hackers accrochent l'éducation nationale à leur tableau de chasse.
346 millions de données issues des 20 dernières années ont été aspirées. Numéro de téléphone, mail, adresse postale. La liste s'allonge après les impôts victimes d'une troisième fuite de données, moins importante que les précédentes, disait hier le gouvernement. Signe que l'État est en tout cas dépassé par cette menace, nous disait sur RMC ce matin Jean-Baptiste Souffrant. Il est avocat et ancien secrétaire général du Conseil national du numérique.
C'est plus comme si on avait perdu un badge d'entrée dans un immeuble et que du coup quelqu'un s'en était servi pour entrer. Sauf que dans un immeuble, quand il est bien conçu, vous avez le badge d'entrée, mais vous n'avez pas les clés de tous les appartements de l'immeuble non plus. Et là, bah, visiblement, c'est un peu là que le bât blesse et que bah, finalement, on a l'impression peut-être que on est en train de parler de sécurité informatique comme on parlait de sécurité des sites internet en 1999 ou en 2005 et qu'on n'a pas tiré les leçons du fait qu'on est en 2026, que les attaques sont très différentes, plus difficiles, que les gens sont plus numérisé et que donc il y a aussi plus de responsabilités à avoir.
Et hier, le ministre des Comptes publics s'est excusé auprès des contribuables touchés, promettant de renforcer la formation des équipes et les protocoles de sécurité. Les avocats de Patrick Bruel balayent la polémique. Le chanteur, mis en examen, entre autres pour viol et tentative de viol, a fait une escapade à l'étranger, permise par l'allègement de son contrôle judiciaire. Tollé parmi les plaignantes et réponse des avocats de la star, Maxime Cliérusa.
Il l'affirme, il n'y a aucun passe-droit d'aucune sorte, une manière pour eux de répondre à la polémique, leur client étant parti à l'étranger après l'allègement de son contrôle judiciaire. Maître Lassec, Colin et Ingrin rétorquent qu'il est finalement de retour en France après ce bref séjour. Surtout, ils précisent que leur client ne présente pas de risque de fuite et qu'il a répondu à toutes les convocations de la justice, appelant de ses voeux, selon leurs mots, à la poursuite des investigations. Les avocats rappellent que le contrôle judiciaire ne constitue jamais une sanction et si les conseils du chanteur ont obtenu la levée de l'interdiction de quitter le territoire de leurs clients. Le parquet de Nanterre avait toutefois fait appel. La décision a été mise en délibéré au 16 septembre prochain.
Maxime Cliérusa du service police-justice de RMC. 4 ans de bataille parlementaire plus tard, l'aide à mourir est autorisée en France. Emmanuel Macron a promulgué la loi fin de vie hier soir.
Les supermarchés font un geste pour les agriculteurs.
En étant moins exigeants que d'habitude sur l'apparence des produits, sont-ils jolis? Répondent-ils ces légumes aux standards de taille de grandes entreprises, de grandes enseignes, Leclerc, U, Carrefour, Auchan ou encore Intermarché s'engagent à être moins tatillons et à mettre en avant le Made in France. Le président de l'interprofessionnel des fruits et légumes applaudit, mais Daniel Sauvêtre lance aussi un appel aux consommateurs.
Cette année, on aura sans doute quelques fruits, quelques légumes qui auront pris un peu trop le soleil, mais ils n'en seront pas moins bons, bien au contraire. Et donc, on invite vivement les consommateurs à venir se faire plaisir et à les choisir comme ils choisissaient avant les fruits et légumes parfaits sur leur épiderme. Et donc, en effet, d'accepter peut-être d'avoir des fruits un peu moins jolis. Mais je suis même prudent, hein, parce que ça sera vraiment à la marge. On n'est pas en train de changer totalement la configuration des pales.
Et autre coup de pouce rendu officiel pour les agriculteurs, la loi d'urgence agricole a été publiée au journal officiel ce matin. Elle réintroduit 2 pesticides jusque-là interdits en France et facilite les stockages d'eau artificielle. 2 diplomates iraniens vont être expulsés de France, annonce du chef de la diplomatie française hier soir. C'est une mesure de représailles du Quai d'Orsay un mois après des actions similaires de Téhéran à l'encontre de 2 Français.
Et hier, Sophie Adnaud est entrée dans l'histoire. Elle est devenue la première Française à sortir dans l'espace.
Une mission en dehors de la Station Spatiale Internationale, une mission de réparation à moitié accomplie. Le récit de Célestin Bougère pour RMC.
La Station Spatiale Internationale survole le nord-ouest de l'Afrique lorsque l'on aperçoit Sophie Adnaud sortir du sas en combinaison. Elle demande en anglais l'accord du centre de contrôle à Houston et se lance.
J'arrive à l'extérieur.
Bienvenue dans l'espace.
Merci, je me sens bien dans l'espace. Je suis prête à commencer.
Objectif de la mission, remplacer une antenne défectueuse essentielle à la communication entre la Terre et l'ISS. Micro et caméra sur le scaphandre, tout est retransmis en direct dans le monde entier. On entend Sophie Adnaud et son binôme binôme américain communiqué, mais les deux astronautes ont pris du retard dans leur mission. Certains boulons sont difficiles à desserrer.
Je vais essayer comme ça. 1, 2, 3.
Bon travail, les gars.
L'antenne est finalement démontée, mais il n'y a pas assez de temps pour installer la nouvelle. Retour dans l'ISS pour Sofiane Noe et Anil Menon après 6h23 de mission.
Quelle journée! Merci à tous ceux qui ont rendu ça possible. Même s'il y a eu beaucoup d'inconnus et d'incertitudes, c'était un succès.
Aucune date n'est arrêtée pour installer cette nouvelle antenne. Prochaine sortie dans l'espace pour les astronautes de l'ISS, mardi prochain.
Et une première saluée par Emmanuel Macron, une fierté française autant qu'un horizon pour les petites filles qui rêvent d'infini, écrit le président sur les réseaux sociaux. Le foot et ce bon match nul pour Lyon, match aller des barrages de Ligue des Champions en Turquie contre le Fenerbahçe, score final 1-1. L'Olympique Lyonnais est en bonne position avant le match retour mercredi à domicile.
Les courses, le quintet qui se déroule sur l'hippodrome de Laval à 18h30.
Et un mea culpa parce qu'à 7h30 évidemment j'ai confondu les jours, ça arrive. Nous serons bien à Laval ce soir 18h30. Le pronostic de la Dream Team des courses RMC, le bon. Son favori, c'est le numéro 14, Ridley Lavec. Son outsider, le 15, Just Midi, le 14 et le 15.
Merci beaucoup.
Et merci à notre auditeur qui nous a alerté. Il y a des vigies quintées parmi les auditeurs d'RMC.
Mais moi, je vous donne les coulisses. Je vous donne les coulisses, c'est que Victor Pourchet était en train de s'enthousiasmer sur un but de, de Greenwood, ancien Marseillais.
C'est la faute de l'OM. C'est
toujours la faute de l'OM. Voilà.
Attendez que ça recommence, les saisons, vous allez voir.
Et pour taquiner Victor, c'est la première fois depuis la rentrée. Là.
C'est vrai, c'est vrai. Ça c'est reparti. Le premier jour que je reviens.
Claude est avec nous en Charente-Maritime. Bonjour Claude.
Oui, bonjour.
Comment ça va Claude?
Bien.
Vous êtes retraité grossiste. Ah, vous fournissiez les grandes surfaces?
Je fournissais pas beaucoup de grandes surfaces, très peu. À 70% de ma clientèle, c'était des détaillants. Le reste, on va dire que c'était
les marchés.
Enfin, moi, 70% c'était les marchés, hein, les détaillants.
D'accord.
Et le reste, c'était de les écoles, bref.
Les collectivités. Voilà. Alors, Claude, vous avez entendu que la grande distribution veut venir en aide aux agriculteurs. Ils ont souffert de la sécheresse, des conditions de canicule de cet été.
Oui.
On va revoir les calibres, assouplir en réalité, accepter des courgettes qui sont plus petites, des carottes qui sont pas droites.
Alors moi, où je voulais intervenir, c'est que on dit que sans arrêt, ce sont les grandes surfaces qui ont fait les normes. Les normes existent depuis dans le fruit et légumes, puisque mon père était aussi grossiste avant moi, et j'ai commencé en 73 avec lui. Et les normes existaient déjà, hein, catégorie 1, catégorie 2, etc.
Oui, c'est pas nouveau, quoi.
C'est pas nouveau. Ça a été instauré dans les années 50 et ensuite dans les années 60 avec la CEE, qui nous permettait d'exporter. Et donc, les normes étaient internationales.
Non, mais bien sûr. Alors, ça c'est pour l'histoire. Après, on peut peut-être aujourd'hui réfléchir à l'idée que
la grande surface est liée pour rien du tout là-dedans. Je veux dire.
Vous dites, c'est pas de leur responsabilité, c'est des normes qui ont été établies auparavant.
Pas du tout. La seule différence, c'est que la grande surface achète au téléphone par rapport à un détaillant qui se déplace. Donc la grande surface, quand elle achète au téléphone, elle veut, par exemple, tomates catégorie 1.
Voilà.
Eh bien, il faut que le fournisseur lui donne des tomates catégorie 1.
Et que ça corresponde à la catégorie. Non, mais Claude, c'est bien de le préciser. Vous avez raison. Et on est tous un peu responsables aussi hein, dans ce débat-là de ce qu'on achète. Parce que la grande surface vous répondra que de toute façon, si le fruit est hors calibre, etc., le client ne l'achète pas. On a eu quelques réactions ce matin sur les fruits et légumes, Élise.
Oui, alors, vous êtes assez nombreux ce matin à nous dire qu'importe la tête et le look, finalement, de mon fruit ou de mon légume. Ce qui m'importe, c'est son prix. Et ce sera ça aussi l'enjeu dans les prochaines semaines. Et je voudrais vous lire le message de Mathieu aussi qui nous écrit ce matin. Il faut arrêter de dire que les supermarchés font un geste pour les agriculteurs. Ils acceptent ça simplement parce qu'ils savent que sinon, ils n'auront pas assez de fruits et de légumes à proposer à leurs clients. Évidemment, ils y ont un intérêt aussi à accepter les fruits et les légumes moches. Hein.
On n'aura pas de pénurie, mais on n'aura pas les calibres. Quoi. Merci Mathieu et merci à Claude aussi qui était en ligne avec nous au 32-16 ce matin, 8h41.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, c'est le choix de la rédaction, les piratages en série, les fuites de données massives qui nous rendent parano. Alors comment protéger nos données? On vous dit tout dans un instant sur RMC. RMC Story, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h44 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous. La cybersécurité au cœur de l'actualité, de notre quotidien, partout, en ligne, nos données personnelles peuvent faire l'objet d'un piratage. Le groupe de cybercriminels Zerobyte a revendiqué hier le piratage de 346 millions de lignes de données de l'éducation nationale. Quelques jours seulement après avoir revendiqué le vol de données fiscales de plus de 500 000 particuliers et professionnels. Un constat, une réalité qui est loin de rassurer les internautes, Vincent Chevalier.
Certains citoyens ont bien intégré le risque de mettre ces données en ligne.
Moi, je pense qu'on aurait raison de se sentir inquiet.
Édouard fait partie de ces Français qui ne se font pas d'illusions.
Si on n'est pas inquiet, faut vite l'avoir intégré. C'est-à-dire partir du principe que, d'une manière générale, toutes nos données sont susceptibles d'être piratées si elles ne l'ont pas déjà été.
Cette vigilance devient même fatigante selon ce quinquagénaire. Mais pas le choix, l'actualité ne rassure pas vraiment Agathe.
On se dit qu'on est en danger de partout. Toutes nos données sont dans nos téléphones, que ce soit nos empreintes, nos codes, enfin on a tout, nos numéro de banque, on a tout dans les téléphones, ça devient super, super dangereux.
Une quasi-paranoïa entretenue par les nombreux messages suspicieux souvent reçus.
Les messages de la caisse, enfin de Amélie, qui nous disent qu'il faut bien retaper tous nos codes et autres pour remettre la carte vitale à jour. On clique pas dessus, enfin on essaie de faire attention, mais ça peut être très vite fait, quoi.
Alors certains entrent en résistance, pas question de se faire avoir ni de céder au tout numérique. Gisèle, 86 ans.
Tous les numéros qui sont faits dans mes contacts, je ne répond jamais. Oui, les mails aussi. D'ailleurs, ils vont souvent aux indésirables. Quand je vais avoir un décompte, je vais à la banque, à la machine. Jusqu'à présent, je résiste.
Alors, il n'y a pas que les particuliers qui ont compris les risques, Vincent, les TPE, les PME aussi.
Oui, elles sont de plus en plus nombreuses à s'équiper. Selon le baromètre France Num, 84% d'entre elles disposent de moyens de cybersécurité, mais ils sont souvent trop basiques. La faute à des budgets dédiés encore trop faibles. Trois quarts d'entre elles consacrent moins de 2000 euros par an à la sécurité informatique, même si ces budgets ont tendance à augmenter, selon Carl André, dirigeant fondateur de Nostranode, qui aide ces entreprises à se défendre.
Les budgets alloués, oui, c'est là où justement, donc il y a eu une vraie prise de conscience. On voit bien que avant, c'était probablement l'un des postes les moins mis en avant. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Ça devient vraiment un enjeu stratégique. Les budgets ont évolué. Les chefs d'entreprise revoient un petit peu leur copie et placent presque ce poste-là, finalement, au premier rang aujourd'hui, pas loin.
Mais alors, comment faire, Vincent, pour protéger ces données en ligne ?
Pour les entreprises, le meilleur conseil est de faire appel à des professionnels. Pour des particuliers, en revanche, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Le mieux est peut-être de limiter le nombre d'inscriptions à des sites et éventuellement de modifier quelques données à l'inscription, comme l'identité ou la date de naissance. Mais même cette technique présente ses limites, selon Corinne Hénin, experte en cybersécurité.
Vous pouvez toujours essayer de les falsifier. Souvent, vous serez confronté aux conditions générales d'utilisation du site qui vont vous dire qu'il faut que ce soit une personne existante pour pouvoir s'en servir. Le mieux, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin ou pas de ce site-là, et de ne pas ouvrir de compte sur un site où on pense y aller une seule fois. Ça limite les informations que l'on laisse dans la nature.
Problème, impossible de falsifier pour des sites comme ceux de l'administration. Reste donc à lui faire confiance pour protéger ses données, et ce n'est pas toujours un succès.
Merci beaucoup Vincent Chevalier, c'était le choix de la rédaction. Il est 8h48 sur RMC et Sébastien Lecornu qui menace de donner les noms des assureurs qui ne joueraient pas le jeu après les méga-feux de Gironde. Yann Arnaud, directeur des assurances et dommages à la Massif, lui répond dans un instant sur RMC, RMC Story. À tous.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 8h50 sur RMC et RMC Story. Les assureurs sont-ils de mauvais payeurs ? Bonjour Yann Arnaud.
Oui.
Vous êtes directeur assurance dommage à la Massif. Le Premier ministre était en Gironde lundi pour rencontrer les sinistrés et les pompiers et annoncer toute une série de mesures pour sa mission reconstruction. Il a aussi parlé de vous, les compagnies d'assurance.
Je pense pas, oui, il a parlé de nous. Nous sommes fait engueuler à la place des assureurs. Donc nous ne manquerons pas évidemment de restituer aux assureurs ce que nous avons entendu. On n'est pas là pour taper sur elles. Enfin, je le dis quand même, celles et ceux qui joueront le jeu, on dira lesquels. Et celles et ceux qui ne joueront pas le jeu, eh ben, on dira lesquels aussi.
Alors vous n'avez pas apprécié d'être pris pour cible par le Premier ministre. Il dit qu'il s'est fait engueuler à votre place.
Ouais, c'est bizarre parce qu'en fait, on est sur place depuis un certain temps. Nous-mêmes, à la Massif, on avait délégué une équipe mobile la semaine dernière qui était au marché du Porge, hein, à rencontrer nos sociétaires.
Et globalement, pour l'instant, il y a pas de remontée. Évidemment, il y a des choses à régler, il y a des demandes d'informations. Les gens qui vivent ces situations qui sont dramatiques, ils ont besoin, hein, encore une fois, qu'on leur explique, parce que c'est la première fois de leur vie qu'ils sont confrontés à ça. Et nous, en tant que professionnels, on a besoin de leur expliquer ça. Mais franchement, ça ressemble à une polémique qui n'avait pas lieu d'être. Donc on sait bien, hein, que ça s'est pas super bien passé.
Il dit qu'il donnera le nom des assureurs qui ne jouent pas le jeu.
Eh ben, dont acte, hein, dont acte, parce que d'une certaine manière, en fait, comme je pense que tous les assureurs aujourd'hui jouent le jeu non seulement, mais travaillent bien, je rappelle, hein, que dès le début des événements, on a relogé plus de 30 000 personnes, hein, donc c'était pas dans les contrats, ça, hein, il faut bien, on est toujours, on a souvent le procès de, ouais, l'assureur, il fait pas son boulot, etc. Il n'y avait pas de dommages et donc néanmoins il y avait des gens qui ont été déplacés dès le début de manière administrative. Les assureurs en fait ont fait en sorte de reloger ces personnes, de leur fournir des kits de première nécessité, des fois de l'assistance psychologique, oui. Hein, parce qu'il y avait vraiment des gens qui étaient en crainte. Donc je pense qu'encore une fois, on peut comprendre les circonstances, hein, qui ont amené à une certaine tension. Maintenant, il ne faut pas alimenter ce genre de clichés. C'est un peu dommage que le Premier ministre l'ait fait, peut-être un peu pour... Je dirais, allez, nous motiver. On est très motivés. Et surtout, on a des clients, on a des assurés.
On va le prendre à moitié plein, le verre. Il n'y a pas de problème, Yann Arnaud. Alors, simplement, les compagnies d'assurance sont étendues jusqu'au 31 août, contre 5 jours habituellement. Le délai octroyé aux sinistrés, particuliers, entreprises, pour transmettre leur déclaration. Aujourd'hui, vous pouvez faire un point d'étape. On en est à combien de dégâts de votre côté? Vous êtes capable de chiffrer?
Oui, alors bon, on a 2000, par exemple, pour la Massif, on a 2600 sinistres qui ont été enregistrés, hein, ce qui est assez considérable. Alors, je vous parle Gironde, Landes et puis Var aussi, hein, qui a été touché. Il y en a déjà une partie qui est réglée, hein. On se pose souvent la question de, est-ce que mon assureur va être long à me rembourser? Ben, nous, on a déjà, sur ces 2600, on a 600 sociétaires. Alors, évidemment, les sinistres les moins graves qui ont été remboursés. Mais globalement, il y a, dans ces 2600 sinistres, il y a 47 maisons qui sont totalement détruites. Et là, il va falloir du temps, parce que vous imaginez bien que nous, on va pouvoir dire, bah, c'est un préjudice qui voit ça. Par contre, derrière, reconstruire, c'est pas comme une voiture, en fait, une habitation. Il va falloir la reconstruire. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver des maçons, il va falloir trouver des charpentiers, il va falloir trouver toutes ces personnes. Et quand on a une maison individuelle qui est détruite, bah, finalement, des artisans, il y en a tout autour. Mais quand il y en a quasiment 240 ou 250, comme c'est plus aux alentours de 450, hein, sur l'ensemble des territoires, ça veut dire que forcément, ça va prendre du temps. Et donc, il faut prévenir les gens, il faut être honnête avec les gens, il faut leur dire, ça ne sera pas l'assurance qui posera problème. Sébastien Lecornu a fait une bonne annonce quand même, hein, je lui reconnais ça, il a dit on va accélérer les permis de construire, en un mois on va délivrer des permis de construire, dont acte, hein, que l'État prenne ses responsabilités.
On suivra, parce que vous alertez, effectivement, il ne faut pas croire que si l'assurance assure, ça ne veut pas dire que les gens seront chez eux à Noël pour ceux dont la maison a été détruite. Simplement une question, Élise, qui nous est arrivée sur le WhatsApp RMC.
Oui, question de Philippe qui s'interroge. Comment se fait-il que les assureurs ne vérifient pas s'il y a des coupe-feu autour des résidences de leurs assurés de façon à adapter leurs tarifs?
C'est une chose à laquelle vous allez penser, Yann Arnaud?
Ouais, c'est des choses de toute façon, hein, de manière générale, par rapport à ce risque climatique qui est en train de monter, il va falloir que, pas simplement les assureurs, mais finalement tous ceux qui sont préoccupés par la vie des gens, fassent en sorte, encore une fois, de mettre en place des mesures de prévention. Nous, on est intimement convaincus que la meilleure protection des Français et l'équilibre finalement du régime catastrophe naturelle, mais finalement de l'assurance de manière générale, elle passera par travailler sur la prévention. Alors après, vous savez, les coupe-feu, ce qui est difficile, c'est qu'il faut y avoir un lien en permanence. C'est pas parce que vous avez un coupe-feu qui a été prévu ou vous n'avez pas planté d'arbres, etc., qu'il a été désherbé et donc bien entretenu. Donc l'idée, c'est, encore une fois, il faut qu'on ait autour de ça une vigilance constante et donc, effectivement, très bonne initiative dans un certain nombre de cas, comme par exemple sur le risque sécheresse. On demande aux gens, maintenant, on leur dit, ne plantez pas des arbres trop près de la maison parce que sinon, ils aspirent l'eau et donc, tous ces phénomènes, encore une fois, de retrait gonflement des argiles, ils sont accentués par ça. Donc il y a tout un tas de choses, effectivement, sur lesquelles on va devoir travailler dans les années à venir.
Ouais. Merci beaucoup Yann Arnaud d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu aussi à l'invective du Premier ministre lundi. Yann Arnaud, directeur assurance dommages. à la Massif en direct sur RMC, RMC Story. Merci mille fois. Alain Marchal est arrivé. C'est l'heure des grandes gueules. Ça va démarrer.
C'est l'heure des grandes gueules. 9h midi, bien sûr, avec en invité le député France Insoumise, Adrien Clouet, à la veille de l'ouverture des journées d'été de la France Insoumise. On reparlera du parquet de Crépol qui ne retient pas pour le moment le racisme anti-blanc dans le meurtre de Thomas Perretto. La maire de Romans-sur-Isère dit pourquoi ? Parce que c'est une question qui dérange et je trouve que le parquet est frileux. Est-ce qu'elle a raison ou pas ? Et puis on reparlera de ces associations de protection des animaux qui disent aux chasseurs n'allez pas chasser là où ça a brûlé. La faune a déjà été détruite, il faut continuer de l'épargner. Les chasseurs disent non, désolé, nous on sait ce qu'on doit prélever, on sait ce qu'on a à faire. On est reparti sur l'éternel débat, est-ce que les chasseurs doivent s'abstenir de chasser dans les zones incendiées ? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules.